Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue le chat, bonjour! Comment ça va? Incroyable, bonjour! Comment ça va? Alors, il y a eu un accident, il y a eu un accident. En fait, j'étais censé streamer à 15h. J'étais censé streamer à 15h. Il est 16h. Parce qu'en fait, j'ai été retenu prisonnier par ma couette et mon oreiller. Par conséquent, incidemment, il est 16h. Voilà. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il est désolé, il dit qu'il savait pas. Il dit qu'il savait pas. Je condamne la couette et l'oreiller. Moi aussi, je condamne la couette et l'oreiller, absolument. Merci tout bien. J'ai un constat d'huissier qui dit que que je dormais. Si c'est vrai, c'est très grave. Est-ce que tu veux écrire un livre sur ta détention? Justement, c'est un peu le thème aujourd'hui, évidemment. Le fait d'être retenu prisonnier contre son gré. Non, mais contre son gré. Didadidadoum. Il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose de ce livre, hein, parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. Il y a un moment, bon, voilà, c'est... Le journal d'un oreiller. Alerte rouge, on n'a pas de budget. Oui, j'ai vu, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. La commission mixte paritaire, sans surprise, a échoué à se mettre d'accord sur un budget. Et du coup, on va se diriger vers une loi spéciale. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Avant de parler de Sarkozy, on va lire un article quand même du Monde pour faire le point sur la situation budgétaire. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi ce bordel avant que vous partiez en vacances pour Noël? Où est-ce qu'on en est? Hop. Alors, en l'absence de budget, une loi spéciale pour démarrer l'année 2026. Comme fin 2024, une loi spéciale va être soumise aux parlementaires pour éviter un blocage financier alors que le budget de l'État n'a pas été voté. Ce texte ne constitue qu'une rustine provisoire, prévient le gouvernement. Impossible de tenir l'année sans projet de loi de finances. Donc rebelote, comme l'année dernière, loi spéciale into budget au mois de janvier. Et à partir du mois de janvier, il y aura à nouveau le 49.3 qui sera disponible. Parce que Sébastien Lecornu, il a dit « j'utiliserai pas le 49.3 sur ce budget, sur le projet de loi de finances initial ». Mais sur un projet de loi de finances en janvier, voilà. Donc 49.3 en janvier. Pour Noël, le menu politique sera le même qu'en décembre 2024. Un peu sec, pas de budget, une maigre loi spéciale en guise d'ersatz. Après l'échec vendredi 19 décembre de la commission mixte paritaire censée élaborer un budget de compromis pour 2026, le gouvernement a pris acte de l'impossibilité qu'un projet de loi de finances soit adopté et promulgué avant la fin de l'année. Il s'apprête à soumettre aux parlementaires un texte alternatif, une loi spéciale destinée à éviter le blocage financier total de l'État. Le processus s'annonce expéditif. Le Conseil d'État, saisi du projet, doit rendre un avis juridique ultra rapide. Le texte pourrait être examiné durant le week-end par le Conseil des ministres, puis lundi par les députés, mardi par les sénateurs, avant d'être promulgué dans la foulée. Donc effectivement, ça va aller vite avant Noël. Hein. C'est en trois jours, la loi spéciale s'est adoptée, emballée, s'est pesée. L'année dernière, elle avait été très très largement adoptée, hein, la loi spéciale. Hop. C'est que le temps presse. Fin 2024, le gouvernement démissionne. Quoi, mise à jour Windows, ta gueule? C'est fou, ça. Pardon, excusez-moi. Fin 2024, le gouvernement démissionnaire de Michel Barnier avait présenté son projet de loi spéciale au Conseil des ministres le 11 décembre. Le texte avait ensuite été à peine amendé par l'Assemblée nationale, adopté à l'unanimité par les députés, puis les sénateurs en moins d'une semaine, et promulgué par le président de la République Emmanuel Macron le 20 décembre. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, le processus débute avec une dizaine de jours de retard. Alors que l'échéance finale reste identique, il faut faire en sorte que, pour l'État, la lumière ne s'éteigne pas le 31 décembre à minuit. C'est ça l'enjeu. En bonne logique, le texte devrait être sensiblement identique à celui de décembre 2024. 4 articles, courts, destinés à assurer la continuité de la vie nationale malgré le désordre politique qui a empêché le vote du budget. Un premier article pour autoriser l'État à percevoir les impôts existants, de manière à garantir le financement de l'administration. Un deuxième sécurisant les recettes des collectivités territoriales. Deux derniers autorisant l'État et les organismes de sécurité sociale à emprunter. À cette loi minimaliste devrait s'ajouter, comme en décembre 2024, un décret relatif aux services votés. Il permet d'ouvrir des crédits, c'est-à-dire à l'administration de dépenser un peu d'argent, ne serait-ce que pour payer les fonctionnaires et éviter un shutdown comme aux États-Unis. Ces crédits sont toutefois extrêmement contraints. Dans chaque domaine, les dépenses ne peuvent excéder celles votées pour l'année précédente. C'est pour ça qu'on dit qu'on reconduit le budget de l'année précédente, ce qu'on appelle les services votés. Et aucune mesure nouvelle ne peut être mise en œuvre, hormis en cas d'urgence nationale nécessitant une action immédiate. Je sais pas, genre la guerre. Ce genre de truc. Cela équivaut à un début d'année blanche, c'est-à-dire de gel du budget d'un exercice sur l'autre. Pour le projet du gouvernement, les dépenses publiques devraient croître de 0,3% en 2026, avec une hausse de 1,8% pour les seules dépenses de l'État. Avec une loi spéciale, elles seront provisoirement gelées. L'augmentation annoncée de dépenses militaires de 6,7 milliards d'euros, par exemple, ne pourrait pas se concrétiser dans l'immédiat. Au total, ce gel des dépenses entraînerait sur le papier une économie de 20 milliards d'euros pour l'État s'il devait se prolonger durant toute l'année. Il n'y a aucune chance que ça se prolonge pendant toute l'année. Le but, c'est d'adopter un budget rapidement, sous-entendu une autorisation de dépenses supplémentaires. Mais combien de temps cette loi spéciale fera-t-elle office de budget? C'est la question décisive que se pose Jean Massier, le streamer talentueux. En 1980, où un premier accro politique avait conduit à recourir à ce type de loi, le budget définitif était entré en vigueur au bout de 18 jours. Pour le budget 2025, un accord a été trouvé à la mi-février. Rappelez-vous, les socialistes avaient accepté de ne pas censurer le gouvernement en échange d'un conclave sur les retraites. Pour 2026, certains parlementaires, comme l'ancien rapporteur général du budget, le centriste Charles de Courson, ont évoqué la possibilité que cette rustine tienne bien plus longtemps. De nombreux mois, voire toute l'année. Ça paraît compliqué quand même. Impossible, réplique le gouvernement. Compte tenu de la hausse de certaines dépenses obligatoires, comme le paiement des intérêts de la dette publique ou la masse salariale des fonctionnaires, l'enveloppe de l'année 2025 risque de se révéler assez vite trop serrée. Il est indispensable d'avoir un budget en bonne et due forme au printemps, assure-t-on à Bercy. C'est que la situation pourrait être bordélique pendant longtemps jusqu'au municipal. Hein. Pour moi, c'était voté en janvier-février comme l'année dernière, mais ça se trouve, on va en entendre parler du budget. Au-delà de ce facteur technique, l'enjeu est éminemment politique. La loi spéciale ne fait aucun choix, a expliqué vendredi François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, sur France Inter. Or, nous avons besoin, par exemple, de dépenser plus pour la défense. Et puis, la loi spéciale nous conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est souhaitable parce qu'elle ne comporte pas de mesures d'économie. Elle ne comporte non plus aucune mesure fiscale. On repart sur le budget de l'année dernière, quoi. De fait, les rares mesures d'économie prévues par le gouvernement ne pourront pas s'appliquer à court terme. En dehors de celles intégrées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui, lui, a été définitivement adopté par le Parlement et doit encore être validé par le Conseil constitutionnel. De nouvelles règles fiscales, qui devraient aboutir à une hausse des prélèvements obligatoires, ne pourront pas non plus entrer en vigueur au 1er janvier. Le barème de l'impôt sur le revenu, en particulier, ne sera en principe pas relevé pour tenir compte de l'inflation, ce qui pourrait amener 200 000 contribuables à s'y retrouver assujettis. Ben oui, parce que si tu relèves pas les barèmes de l'impôt sur le revenu chaque année, avec l'inflation, il y a des gens qui rentrent dans le barème, qui passent à une strate supplémentaire. Sauf à trouver en urgence une solution pour éviter ce problème politiquement explosif. En sens inverse, la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises va logiquement disparaître pour le moment, alors que le gouvernement comptait la prolonger partiellement. Intéressant cet article de Denis Cosnard pour le journal Le Monde, qui fait le point sur cette loi spéciale qui devrait être adoptée probablement la semaine prochaine, qui permettra de passer Noël, mais qui, d'après le gouvernement, ne peut en aucun cas tenir lieu de budget pour l'année 2026. Il va bien falloir prendre des décisions budgétaires. Donc c'est comme l'année dernière, loi spéciale, c'est une rustine, ouais, c'est une rustine pour passer les fêtes, quoi. Et après, il faut prendre des décisions budgétaires, relever le barème de l'impôt sur le revenu, emprunter de l'argent, dépenser de l'argent, tout ça. On va encore parler que de budget pendant des semaines, c'est déprimant. Mais non, c'est pas déprimant, parce que ce sera sur la chaîne de Jean Massier. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi, ça me saoule. Ça me saoule. Ça fait depuis septembre, on parle que de ça, c'est pénible, c'est dur, c'est chiant. Non, ben ouais, bah ouais. C'est bon pour le business de la vulga politique au moins. Détrompe-toi, Mep, mon cher, détrompe-toi parce que les gens sont saoulés. Hein. Enfin, non, mais vraiment, moi je le vois depuis septembre dernier, les débats budgétaires, ça excite pas le public. Hein. Les gens, ils veulent du 49-3, les gens, ils veulent de la motion de censure. Les gens, je veux dire, les débats budgétaires, c'est... Ça fatigue tout le monde, quoi. C'est un bel aveu d'échec, il n'y a aucun progrès en un an. Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, l'Assemblée nationale, elle n'a pas changé depuis un an. C'est ça aussi la réalité, de nos hôpitaux. Non, mais l'Assemblée nationale, c'est la même. Hein. Elle est toujours tripolarisée, elle n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. En général, le budget. Donc le budget 2027, donc le budget qui sera négocié en 2026 pour l'année 2027, en fait en général, il peut passer assez facilement dans la simple et bonne raison que comme on attaque une année d'élections présidentielles et législatives, le gouvernement prend pas de grandes décisions dans le budget de l'année en cours. Donc en général, En général, le budget présidentiel, enfin le budget avant l'année présidentielle, c'est très technique. Il n'y a pas de grande décision qui est prise, il n'y a pas d'augmentation de dépenses faramineuses, il n'y a pas de nouveaux impôts stratosphériques, etc. C'est très technique. Donc, on verra si on aura les mêmes débats l'année prochaine, mais a priori, non. Ça, on verra. Ça a quand même bougé un peu avec le shift des socialistes. Ouais, mais le shift des socialistes, il est sur le budget de la Sécu. Sur le budget de l'État, les socialistes ont dit qu'ils ne le voteraient pas. C'est-à-dire que quand bien même il y avait une commission mixte paritaire conclusive aujourd'hui, pas sûr que l'Assemblée nationale adopte le budget. Hein. En vrai, avec le vote contre des écologistes, avec une potentielle abstention des socialistes, ça passe pas. Hein. Ils sont plus dans une position de refus de discussion, idem pour le gouvernement, ce qui est un changement sur la méthode. C'est pas tant un changement vis-à-vis de François Bayrou, puisque les socialistes avaient accepté de ne pas censurer Bayrou. Donc ils étaient déjà dans une discussion en janvier dernier, janvier-février. Il aurait fallu inviter Cyrielle Chatelain à Baxit, c'est dommage. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Salut Jean, je suis en L1 de sciences sociales et j'aimerais faire un stage à l'Assemblée nationale avec un député. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment m'y prendre? Non, j'ai pas, je, non, non, j'ai pas de conseils. Envoie un mail. Hein. Envoie un mail à un député que t'aimes bien. Voilà. Tant qu'à faire. C'est pas obligé que ce soit ton député, ça on s'en fout, tu peux bosser pour n'importe quel député, mais envoie un mail et puis voilà. CV, lettre de motivation. En parlant de Châtelain, on a des nouvelles de l'appel des vrais faux conseillers. J'en ai pas réentendu parler. J'en ai pas en réentendu parler. Matignon a dit que la justice allait être saisie. J'ai pas d'infos. Il y a des députés qui s'y connaissent plus que d'autres en sciences sociales. Oui. Sans doute. On est nombreux à attendre trop des politiques. J'espère que cette séquence aura la vertu de renforcer les collectifs. Ouais, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire, mais il ne s'agit pas d'attendre ou de pas attendre des politiques, c'est juste que il n'y a pas de budget, quoi. Les négociations budgétaires, c'est un enjeu en soi. Je sais pas si c'est beaucoup attendre des politiques que de souhaiter qu'il y ait un budget qui soit voté, quoi. Ça dépend du budget, après, il faut qu'on en discute. Donc voilà, pour ce budget, loi spéciale la semaine prochaine. Faudrait inviter Macron dans Backseat. Bah, j'aimerais bien, mais vous avez remarqué que Macron est dans une disette communicationnelle depuis plusieurs mois maintenant. Macron s'est mis vachement en retrait, hein. Les seules fois qu'il dit des trucs, c'est pour dire il faut interdire les téléphones portables au collège, ce genre de trucs. C'est pas très engageant comme propos. Macron laisse Sébastien Lecornu travailler. Là, on n'est pas du tout en cohabitation, mais on est dans une séparation quand même assez stricte et il n'y a pas d'interventionnisme permanent de la part d'Emmanuel Macron. Et on le voit dans les médias, Macron est très silencieux, quoi. La prochaine fois qu'on va voir la tronche de Macron, c'est le 31 décembre quand il va faire son allocution pour dire bonne année. Bonne année, on n'a pas de budget. Mais ouais, non, Macron, il parle pas là. Est-ce que ça aiderait qu'il parle? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ça se trouve, il enverra le cornu à sa place. Ouais, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est pour ça que sans rire, hein, Moi, j'en attends plus de Lecornu que de Macron dans la situation. C'est Lecornu qui a les choses en main. C'est lui qui mène les négociations. Il n'avait pas dit référendum durant l'année? Si. Si, il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit qu'en 2025, ce serait bien que les Français soient consultés sur des sujets importants. Beaucoup de gens, dont moi, on avait conclu qu'il avait l'envie de faire des référendums. Mais comme on n'a pas d'infos, mais comme on n'en a pas eu, on n'en a pas eu quoi. En même temps, avait-il les moyens politiques de lancer un référendum, vu la situation? Il reste 11 jours. Ouais, c'est vrai. Il l'a dit ou on l'a interprété? Bah, on l'a interprété, mais il a été. Bon, quand un président de la République te parle du fait que les Français doivent être consultés, tout le monde en conclut qu'on est en train de parler de référendum, quoi. Il les a consultés sur sa story Insta. Lecornu, il passerait bien dans Backseat, il a un franc-parler que j'aime plutôt bien. Oui, Lecornu serait pas un mauvais invité politique. Mais pareil, Lecornu, lui, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas entendu formellement, quoi. Formellement s'exprimer sur la politique intérieure. Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je suis en train de dire parce qu'il a fait des allocutions à Matignon. Il est dans les négociations budgétaires. Il a eu l'occasion de répondre à des micros tendus, aux questions au gouvernement. Donc, mine de rien, Lecornu, on l'a entendu. C'est Macron qui est silencieux, quoi. Mais c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas. Enfin, je dis pas ça parce que j'aime pas Macron, c'est pas le sujet. C'est que parfois, que le président de la République se tienne un peu à distance, au-dessus de la mêlée, comme dirait Charles de Gaulle, et qu'il soit pas omniprésent dans les médias, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien de foutre la paix au Premier ministre, mais surtout dans la situation, je veux dire encore une fois, situation de division parlementaire comme ça, on a plus besoin d'un Premier ministre que d'un président de la République. Donc voilà. Pas plus mal, quoi. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Enfin, pardon, je réfléchis, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire, Macron? Il pourrait dire. Et on les connaît, les arbitrages budgétaires du gouvernement. C'est pas Macron, c'est pas un Deus ex machina qui peut venir à lui tout seul trouver un compromis impossible. Est-ce que c'est compliqué d'avoir des ministres à backseat? Non, c'est pas plus compliqué qu'un autre responsable politique. Le problème souvent avec les ministres, c'est l'agenda. C'est l'agenda, c'est que les ministres sont jamais dispo. Ils sont dit, voilà, c'est comme ça. Ils sont jamais dispo et en plus ça peut changer en 24 heures. Parce que c'est comme ça. Dissolution éventuelle. Macron ne souhaite pas de dissolution, il l'a déjà dit. Macron ne veut pas redissoudre. Il a déjà fait la connerie une fois, il n'a pas envie de la faire une deuxième fois. Macron n'a pas envie de redissoudre, il veut continuer comme ça jusqu'en 2027. Bon an, mal an. De toute façon, son quinquennat est paralysé. Hein, de toute... Son quinquennat, il est paralysé depuis 2024. À cause de sa dissolution foirée. Donc non, Macron va pas dissoudre. Enfin, Macron va pas dissoudre. Vous m'avez déjà entendu dire que Macron, il peut être amené à dissoudre et pas de gaieté de cœur, quoi. Dissolution contrainte. Ouais, c'est ça, dissolution contrainte, quoi. Est-ce que tu rencontres encore plus de refus d'invitation par peur du fait que ce soit une émission Twitch avec de surcroît un public jeune? Bah non, au contraire. Au contraire, les politiques sont plutôt friands de venir s'exprimer devant un public relativement jeune. Vous savez, les politiques sont assez lucides sur la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision et qui écoutent la radio, sur la difficulté de parler aux jeunes, etc. Donc quand on les invite sur Twitch, a priori, ils sont plutôt contents. C'est plutôt un argument en notre faveur. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que les politiques sont dispos, ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de parler en ce moment. Si le cornu démissionne, c'est tout le gouvernement qui saute. Oui. Oui. Il n'y aura pas de dissolution avant les municipales. Après, il serait capable de le faire pour emmerder les préparations des présidentielles. Ouais. Non, mais j'y crois pas. Une dissolution en 2026, j'y crois pas. Disons que le prochain rendez-vous, c'est la présidentielle. C'est la présidentielle, c'est là qu'on va trancher, c'est là que les Français vont décider, c'est là qu'on aura un nouveau président de la République et peut-être une majorité dans la foulée. Ou pas. Mais abonnez-vous parce que on va suivre ça, évidemment. Est-ce que certains ne veulent pas venir car Baxit est trop de gauche selon eux? Oui, il doit y en avoir. Oui, il doit y avoir des politiques qui se disent que ça sert à rien d'aller à Baxit, il n'y a rien à gagner.
Oui, c'est possible.
Mais ça, t'y peux rien. Ça, c'est... Les gens font leur choix. Une invitation n'est pas une contrainte. Ils sont libres de venir ou de pas venir. Un nouveau président avec la même merde à l'Assemblée, ça va être fun. C'est-à-dire que ça n'a pas changé grand-chose. Faut bien comprendre que le pouvoir, la réalité du pouvoir est à l'Assemblée nationale. Si t'as une Assemblée tripolarisée, quel que soit le président de la République, tu peux pas faire grand-chose. Merci, Faé. Merci, merci, merci. Xavier Bertrand et le courage de venir, je l'aime. Je l'aime pas, mais chapeau quand même. Oui, enfin, vous savez, les gens comme Xavier Bertrand, ça fait des décennies qu'ils en font de la politique, ils en ont vu d'autres. Ça leur demande pas un courage monstrueux de venir dans une émission dans laquelle va y avoir de la contradiction, hein. Ils en ont fait d'autres. Enfin, c'est oui, c'est pas. Ils connaissent, hein. Merci, Faerano. Est-ce que tu peux confirmer si ce sont bien les maires qui élisent les sénateurs? Le système n'est pas clair. Merci. Pour ce que tu fais, en tout cas, mais j'ai rien fait, moi. J'ai fait des blagues, j'ai fait des blagues. Oui, ce sont les maires qui élisent les sénateurs. Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Et les grands électeurs sont des élus locaux, conseillers départementaux, régionaux, maires. Et l'écrasante majorité du corpus électoral des élections sénatoriales, ce sont des maires. C'est pour ça qu'on dit, par simplicité, que les maires élisent les sénateurs. C'est parce que c'est la réalité, en fait. C'est surtout les maires qui élisent les sénateurs. Après, il y en a d'autres qui votent aussi dans d'autres collectivités territoriales, mais voilà. C'est pas un coupe-gorge non plus. Si tu te sens pas prêt au contradictoire, faut pas se lancer en politique. Oui, non, mais c'est ça. Oui, non, c'est pas un coupe-gorge, c'est une interview politique. C'est une interview politique. Ouais. Politique, c'est pas. Il n'y a pas de surprise, tu connais tes convictions, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Bon, bah, tu viens et tu dis si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Hein. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas le bout du monde, hein. C'est pas grave. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je pense ce que je pense. Les politiques, vous savez, les politiques, et c'est normal, ils aiment bien défendre leur action, défendre leurs convictions, défendre leur point de vue. Ils font pas de la politique pour rien, ils. Sont contents de répondre à des questions quand on leur pose. Et s'il y a de la contradiction, bah très bien. Vas-y, viens, on discute, en fait. Qu'est-ce qui explique que le Sénat est toujours de droite? Ce qui explique que le Sénat est presque toujours de droite, c'est précisément son corps électoral qui est composé d'élus locaux. Merci Nam Tartar. Et il y a une surreprésentation dans l'électorat des sénateurs de maires de petites communes rurales. Or, il se trouve que les maires de petites communes rurales ont plutôt tendance à voter pour des conservateurs que pour la gauche. Pour des raisons historiques, sociologiques, politiques, etc. Voilà. Les politiques ont encore des convictions? Pourquoi ils n'en auraient pas? Un maire de commune de 20 pélos a autant de poids que le maire de Paris. Alors oui et non. Oui, parce qu'ils ont chacun un bulletin, mais non parce que il y a quand même des règles de représentations différentes pour les communes avec beaucoup d'habitants, où il n'y a pas que le maire qui vote, il y a aussi les conseillers de Paris, en l'occurrence, je crois certains conseillers de Paris, du conseil de Paris, pour la mairie de Paris en l'occurrence. Tu as des délégués du maire aussi qui votent, pour les maires d'arrondissement aussi. Donc il y a quand même des règles de. Mais ça n'empêche pas que la représentation la plus importante, vu que ce sont des élections par département, ça reste des maires de petites communes. Et quid des maires sans étiquette? Bah rien, ils votent. Ils votent quand même. Ça a l'air bien opaque comme le vote du ballon d'or. Non, c'est pas opaque, c'est juste que là je vous présente ça à la ZUB parce que j'ai pas le détail, mais c'est pas opaque. Les élections sénatoriales, c'est organisé par la loi, c'est précis, organisé. On sait qui vote pas. Peut-on dissoudre le Sénat? Non, on ne peut pas dissoudre le Sénat. Les convictions des politiques me semblent plus électoralistes que défendeurs d'idées. Après, je ne sais pas de qui tu parles, parce que quand tu dis les politiques, c'est grand comme sac. Il doit y avoir du monde dedans, et je ne sais pas. Puis après, l'électoralisme, en démocratie, est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'inverse? Les politiques sont-ils élus parce qu'ils défendent les intérêts des gens ou défendent-ils les intérêts des gens pour être élus? Ça fait réfléchir. Tu peux faire les deux, défendre des idées et chercher à être élu pour les mettre en place. Oui, et c'est pas fondamentalement malsain, je pense. Là où ça peut devenir malsain, et c'est vrai qu'il faut être méfiant, je pense, quand on est citoyen, c'est ce qu'on appelle la démagogie. C'est ce qu'on appelle la démagogie, c'est-à-dire une espèce de posture rhétorique un peu facile qui consiste pour un politique à te dire ce que tu as envie d'entendre pour flatter ton bulletin de vote et espérer obtenir tes faveurs. Quitte à te mentir, quitte à te raconter un peu n'importe quoi, quitte à te proposer ou te promettre des choses infaisables, irréalistes, fantasmatiques, etc. C'est quoi le rôle du Sénat à la base du design? Empêcher que l'Assemblée fasse des dingueries. En partie, oui. En partie, ce qu'on appelle le bicamérisme. Alors, c'est une longue histoire, la construction de notre système politique. Mais disons que on a retiré le pouvoir d'un seul, qui était le pouvoir du roi, pour le filer à une Assemblée. Et on s'est rendu compte que filer tout le pouvoir à une seule assemblée, c'est pas mieux. que fait le pouvoir à un seul homme. Parce que si tu concentres les pouvoirs, que tu les divises pas et que tu crées pas de contre-pouvoir, l'Assemblée, elle aussi, peut avoir tendance à en abuser. Donc, on a petit à petit, avec le temps, construit un bicamérisme autour de deux chambres du Parlement, une Assemblée nationale, un Sénat. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, ça n'a pas toujours eu ce nom-là, dans l'idée que le travail parlementaire fasse l'objet d'un. Le travail législatif, notamment, fasse l'objet d'un travail conjoint de deux chambres aux légitimités différentes, élues par des systèmes politiques différents et surtout indépendantes l'une de l'autre pour permettre d'améliorer le processus législatif. Donc, oui, une partie de la légitimité du Sénat repose dans la volonté d'apporter un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale, ou au moins une étape supplémentaire pour empêcher que l'Assemblée nationale ait le premier et le dernier mot. Voilà. Et le CESE. Alors le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, n'est pas une chambre du Parlement. Le CESE n'intervient pas dans le processus législatif, dans le contrôle de l'action du gouvernement, etc. Il a aussi une autre utilité, le CESE, pour plein de raisons, mais c'est pas, ça n'intervient pas dans le processus législatif. On pourrait en discuter au demeurant, mais en l'état actuel des choses. Elle n'a pas le premier et le dernier mot. L'Assemblée nationale, en cas de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot, si le gouvernement le demande. Mais elle est quand même passée par un processus où elle a échangé avec le Sénat. C'est-à-dire qu'en gros, l'Assemblée nationale n'est pas obligée d'accepter ce que propose le Sénat, mais elle peut le faire. Et elle doit argumenter pour expliquer pourquoi elle ne le fait pas. Et ça, c'est déjà en soi un garde-fou intéressant. C'est pas le bout du monde, mais c'est déjà pas mal. Après, dans le processus législatif, il n'y a pas que l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a aussi le Conseil constitutionnel qui juge de la constitutionnalité après coup. Il y a le Conseil d'État qui intervient sur les projets de loi en amont, sur la validité juridique et la faisabilité du bordel. Voilà, il existe des garde-fous, mais à la fin. Et c'est plutôt une bonne chose, je trouve, c'est effectivement l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, parce que l'Assemblée nationale, elle est issue du suffrage universel direct, ce que n'est pas le Sénat, qui est issu du suffrage universel mais indirect, qui a donc une moins forte légitimité démocratique, et qui donc ne peut pas imposer ses vues à l'Assemblée nationale. Le Sénat doit être supprimé ou avoir juste un avis symbolique comme la Chambre des Lords au Royaume-Uni. Bah, c'est le cas. Voilà. Donc ça devrait te convenir. Pour moi, le Sénat reste illégitime. Bah, ils sont élus quand même, les mecs. Enfin, je sais pas, c'est. Tu peux trouver que la légitimité n'est pas suffisante, tu peux trouver plein de trucs, mais dire qu'il est illégitime, quand même. Qui décide de ce qui est ou non secret défense? J'en sais rien. Les services de renseignement, probablement. Si le résultat de l'élection du Sénat est différent du suffrage direct, ça veut dire que le système d'élection du Sénat est mauvais et biaisé. Non, ça veut juste dire qu'il est différent. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait absurde. En gros, la politique aujourd'hui est internationale avec la décision de donner de l'argent russe à l'Ukraine. C'est une décision. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Est-ce que la durée du mandat des sénateurs pourrait être changée? Ouais, elle l'a déjà été. Elle l'a déjà été, les sénateurs sont passés de 9 ans à 6 ans de mandat. Voilà. C'était quand d'ailleurs le. C'était la réforme de 2008? C'était peut-être la réforme de 2008. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, il est l'heure de nous attaquer. Je me suis pas spoilé, hein. Je l'ai pas encore lu, hein. Il est l'heure de nous attaquer au journal d'un innocent injustement embastillé. Injustement embastillé. Alors il paraît qu'il parle de sa, il raconte un petit peu sa détention, mais il parle aussi de politique. Et c'est notamment dans ce livre qu'il parle de l'extrême droite en disant que oh mais faut arrêter de les ostraciser, ils sont pas si méchants que ça. Moi je pourrais voter pour eux, tout ça, tout ça, tout ça. Victime des bolcheviks. Victime des bolcheviks exactement. Quelle triste histoire, c'est terrible, c'est terrible, c'est absolument terrible. Donnez-moi un numéro de page. Donnez-moi un numéro de page dans le chat. Didadidadoum. 69, 69, évidemment, évidemment, 69, bien sûr, bien sûr. Alors, page 69, on va lire la page 69. Hop. J'en reviens pas, mais allez, on le fait quand même. Je rappelle un fait. Hélas oublié, mais qui me semble particulièrement illustratif de cette dérive judiciaire. Le financement de ma campagne de 2007 avait déjà fait l'objet d'une enquête très approfondie dans le cadre de l'affaire Bettencourt. J'avais donc déjà suspecté et même mis en examen, non pardon, j'avais donc déjà été suspecté et même mis en examen pour avoir prétendument reçu de l'argent de Liliane Bettencourt. L'instruction avait tourné court. Le juge gentil, n'ayant, et pour cause, pas trouvé le moindre centime de liquide dans le financement de ma campagne, j'avais bénéficié d'un non-lieu et le magistrat avait précisé dans son ordonnance que toutes les factures contrôlées de ladite campagne n'avaient donné lieu à aucune irrégularité. Oui, mais sur un financement illégal, on s'en fout des factures. Ce qui compte, c'est la provenance de l'argent. Bref. Malgré cela, une nouvelle instruction était confiée, cette fois au juge Tournaire, pour les mêmes aberrations, avec cette fois comme bienfaiteur prétendu Kadhafi et non plus Liliane Bettencourt. Le pauvre Nicolas Sarkozy qui a fait l'objet de deux enquêtes différentes sur la même campagne. Tu t'arrêtes à des détails, Jean. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il mélange tout. J'ai l'impression qu'il mélange tout. Donnez-moi une autre page. Donnez-moi une autre page. La ligne 49, ligne 3. Ah ouais, 49-3, on va faire ça. Page 49, troisième paragraphe. Page 49. Troisième paragraphe. Ça va être court, hein. Mon premier parloir de la journée fut avec mon avocat, Jean-Michel Darroy. C'est ça son premier. Bah, c'est le troisième paragraphe de la page 49, c'est tout en bas. Hein. C'est bien écrit, putain. C'est bien écrit. Hein. Non, non, c'est vrai que ça nous retourne. Ça nous retourne. Page 144. Page 144. Page 144. Tous les surveillants qui m'approchaient étaient préoccupés par ma situation et par mon bien-être. je leur étais très reconnaissant de ces remarques d'attention désintéressées. Ils n'étaient pas obligés de s'en préoccuper. Ils n'avaient par ailleurs rien à en attendre. Je leur dois ma première promenade dans la cour réservée aux personnes à l'isolement. Inquiet de me voir enfermé en ce deuxième dimanche sans visite autorisée, à l'exception du prêtre. Ils m'incitèrent à sortir, ne serait-ce que quelques minutes, pour m'aérer. Je n'en avais guère envie, mais je n'ai pas voulu les blesser. Oh, il est allé à la promenade pour faire plaisir aux surveillants. À 17h, je quittais donc ma cellule, entouré de 6 gardes qui étaient affectés à ma protection. Nous n'eûmes pas à parcourir un long chemin. Il fallait juste descendre un escalier, franchir un couloir, passer 2 lourdes grilles, et nous étions arrivés. La première vision était assez rébarbative. La cour n'en avait que le nom. 14 pas en longueur, 8 pas en largeur. Il n'y avait pas matière à pratiquer la course à pied. Le toit était recouvert de barbelés, roulés en cercles ininterrompus. Une double rangée de grilles serrées et épaisses reposait juste en dessous. C'était si dense que je voyais à peine le ciel. Les murs, couverts de la salpêtre et décrépits, ne faisaient guère plus envie. Il faisait froid ce jour-là. Je suis resté un petit quart d'heure à deviser avec 2 de mes surveillants. Nous avons parlé de nos familles. L'un d'entre eux m'a confié avoir eu 23 ans en 2007, au moment de mon élection à la présidence de la République. C'est vraiment story time. Story time, t'es surveillant de prison. Et un jour, tu discutes avec un prisonnier de l'âge que t'avais l'année de son élection à la présidence de la République. Bon, lundi comme un autre, hein. Donc, au moment de mon élection à la présidence de la République, j'ai voté pour vous et je regrette que vous n'ayez pas été réélu. Cela m'a fait plaisir. La politique était là, même en prison. J'avais vite fait le tour de cette cour qui n'en avait que le nom. Ça, tu l'as déjà dit, ça. Je remontais dans ma cellule un peu transi et surtout si heureux que ce dimanche touche à sa fin. Demain serait un autre jour. Je retrouverai Carla après cette coupure. Ainsi va la prison où la seule façon de vivre est d'espérer la rencontre du lendemain. Seule cette perspective permettait de m'échapper de la triste monotonie du jour. Oh putain. Il a fait 3 semaines de prison, il te parle de ça, on dirait que ça fait 20 ans qu'il y est. Enfin, ouais, bon. Après, je veux bien admettre que ce soit dur à vivre, hein, mais... Je verse une larme. Mais non, ne verse pas une larme. Il va retrouver Carla. Carla qui est mise en examen avec lui, d'ailleurs, hein, dans l'affaire de la fausse rétractation de Takieddine. Putain, j'ai les poils. Qu'est-ce qu'on lit maintenant ? Page 10. Page 10. D'accord, page 10. Ah bah, le livre commence à la page 9. Donc c'est la deuxième page du livre. J'avais été durant 5 ans président de la République française. Un honneur immense, une chance exceptionnelle et aussi un délit grave aux yeux de tous ceux qui détestent le pouvoir politique, surtout s'il est de droite. Vous détestez le pouvoir politique. Et de droite, je l'ai toujours été, sans regret et surtout sans complexe, ce qui constitue à n'en point douter une circonstance aggravante. On ne prête à autrui que les sentiments que l'on éprouve pour soi-même. Ce fut sans doute une erreur de ma part de ne pas l'avoir compris à temps. Je suis un bagarreur, je ne peux pas le cacher. Je ne garde rien ou pas grand-chose par-devers moi. Cela peut souvent me conduire à surréagir, à mener des combats inutiles, parfois même à blesser inutilement mes interlocuteurs. Dans le même temps, mais à l'inverse, cela expurge de mon esprit les mauvais sentiments. Ainsi, je suis capable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Genre un magistrat, par exemple. Enfin, ça, c'est moi qui rajoute, hein, pardon. Je ne garde rancune à personne. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour, jusqu'à devenir inextinguible si l'on ne l'interdit pas. Plus on hait, plus on a envie de haïr. Putain, c'est American History X, le mec. Plus on hait, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments m'étant étrangers, je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne.
Quoi ?
Attends, il vient d'expliquer qu'il a de la haine. Et là, il nous dit, ces sentiments m'étant étrangers, je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. C'est peu dire que j'étais à 100 lieues de penser que j'avais pu susciter de telles passions aussi démesurées que disproportionnées. J'ai donc été particulièrement imprévoyant. Je l'ai payé au prix le plus fort, celui de la prison. L'impensable était devenu réalité.
C'est la haine. C'est la haine. C'est votre haine. C'est ta haine qui a conduit un innocent en prison.
C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. C'est pas bien.
Page 72.
Finalement, les meilleures surprises sont venues de ceux que j'attendais le moins. Marine Le Pen fut de celle-ci.
Ouh, vous êtes bien tombé, hein. On va la relire.
Finalement, les meilleures surprises sont venues de ceux que j'attendais le moins. Marine Le Pen fut de celle-ci. Elle avait appelé à voter contre moi en 2012, et donc pour François Hollande, ce qui ne m'avait pas plu. J'avais capté son électorat populaire. Elle me considérait à juste titre comme son principal adversaire. J'avais en outre toujours refusé le moindre accord avec son père, elle-même et son parti.
Ça, c'est vrai.
C'est dire que les contentieux entre nous étaient nourris et nombreux. Certes, le contexte judiciaire pouvait nous rapprocher.
Certes, le contexte judiciaire pouvait nous rapprocher. C'est-à-dire que entre hommes et femmes politiques assis sur le banc des accusés, il y a des liens qui se créent. Ça rapproche. Ça... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est humain, finalement, la politique. C'est beau.
L'application d'une peine d'inéligibilité provisoire avant son appel équivalait à lui interdire l'élection de 2027, ce qui était particulièrement choquant. Mais me soutenir était pour elle plutôt un risque qu'un avantage, à quelques mois de son propre procès en appel. J'ai apprécié ses déclarations publiques à la suite de ma condamnation, qui étaient courageuses et dépourvues de toute ambiguïté. Je lui ai donc téléphoné pour la remercier. C'était notre premier contact depuis fort longtemps. Au cours de la conversation, elle m'a interrogé sur la situation politique. Je lui ai répondu que ma conviction était arrêtée. Les élections législatives anticipées n'étaient qu'une question de semaines. Je ne voyais pas comment le président Macron pourrait y échapper. J'ajoutais que je ne croyais pas en la démission de ce dernier, ce qui renforçait encore la probabilité de cette perspective. Elle me... Remarque, je rigole, mais je partageais son analyse à l'époque. Hein. Macron ne va pas démissionner, une dissolution est plus probable. Moi, ça, je l'ai dit. Hein. Abonnez-vous. Hein. Elle me répondit, Votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire. Vous associerez-vous à un quelconque front républicain ? Ma réponse fut sans ambiguïté. Non. Et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet. Et c'est cette phrase, je rigole pas, mais c'est cette phrase. Peut-être que la personne qui a dit page 72 dans le chat le savait, mais en fait, c'est cette phrase du bouquin qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce que je viens de lire là, c'est un ancien président de la République française qui assume de ne pas faire front républicain face à Marine Le Pen. Pour la première fois. Vous associerez-vous à un quelconque front républicain ? Ma réponse fut sans ambiguïté, non, et de surcroît je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet. Elle termina en me chargeant d'un message pour Carla.
Oh.
Dites à votre femme que j'ai admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté à terre la bonnette du micro de Mediapart. Elle l'a fait avec une classe et une douceur remarquables. Je suis désolé, mais là, il y a tout. Il y a toute la droite française. C'est-à-dire qu'on a une femme d'extrême droite condamnée à une peine d'inéligibilité pour détournement de fonds publics qui est au téléphone avec un ancien président de la République condamné pour financement illégal de sa campagne électorale. Et elle lui dit « Trop bien quand on s'attaque à Mediapart ». C'est sublime. C'est sublime. C'est vraiment. Ouais, je. Ok. Attendez, ça continue, hein. Marine Le Pen avait raison. Le geste de Carla était devenu viral sur les réseaux sociaux. J'aurais été incapable de faire aussi bien. Je ne l'avais d'ailleurs pas vue alors que j'étais à côté d'elle à la sortie du tribunal correctionnel. Une petite initiative pouvait avoir un retentissement national. Carla démontra qu'il était possible d'être cinglant sans être violent. Ce fut une leçon utile pour moi. Dit-il après avoir été condamné à de la prison. Oh, c'est dur. Bravo Carla. Ce jet de bonnette de micro est notre plus belle victoire. Vu qu'on a perdu en justice. Non, c'est beau la résistance, c'est beau la résistance. Ça peut être infime, la résistance. Ça peut être des petits gestes. Non, c'est assez merveilleux. C'est assez merveilleux ce bouquin. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. En même temps, vous choisissez bien les pages, hein, donc c'est grâce à vous. On devrait arracher la bonnette de Poutine pour arrêter la guerre. Page 48. La prison est plus sonore la nuit que le jour. Mon voisin de cellule passait une partie de son temps à chanter le Roi Lion et l'autre à s'acharner avec sa cuillère contre les barreaux de sa cellule, déclenchant un bruit assourdissant. Je lui étais reconnaissant d'avoir arrêté ses activités à cette heure assez avancée de la nuit. Le Roi Lion. Non mais c'est le Roi Lion, le Roi Lion, je veux bien, ouais, je sais pas. Je ne tardais pas à sombrer dans un sommeil agité. Les bruits de l'extérieur arrivaient dans ma cellule par vagues successives et continues. Cela s'apaisait, puis enflait à nouveau. Cris, hurlements, insultes, menaces, j'avais le choix. La fatigue fut cependant la plus forte. Je ne compris qu'au petit matin qu'il n'y avait aux fenêtres ni rideaux, ni volets, ni stores. Pas le plus petit obstruateur de lumière. Me coucher avec le soleil,
me lever avec lui. C'était mon nouveau rythme de vie. Je m'éveillais un peu avant 7 heures. Au matin de ma première nuit en prison, je n'avais pas si mal dormi. Mes forces s'étaient reconstituées. Mon quotidien pouvait débuter. Faut-il que je sois un homme d'habitude pour me réveiller en prison à la même heure qu'à mon domicile? Je souriais intérieurement de cette régularité quasi militaire de mon organisme. Bah, il est OK. Donc l'horloge biologique de Nicolas Sarkozy est bien réglée. Il percera en prison. Page 21. Page 21. Le clou de cette comédie aura été mon arrivée à la prison 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Évidemment, avec une telle escorte, je n'avais été retardé ni par les embouteillages, ni par les feux rouges. Hein, Louis Sarkozy? Ton papa, il est arrivé plus vite en prison. Grâce au gyrophare. Pardon, excusez-moi. On a dû faire arrêter ma voiture, et donc mon cortège, car l'administration pénitentiaire qui m'attendait depuis 3 semaines n'était pas prête. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres de l'entrée de la prison, le temps que l'on finisse par l'accepter. Comment mieux décrire le spectacle d'une situation invraisemblable ? Oui, enfin, t'as juste fait la queue, frère. Enfin... Nous demeurâmes ainsi de longues minutes sous le regard interloqué des médias du monde entier. Il y avait beaucoup d'excitation autour de nous. Personne ne comprenait cet arrêt. Les passants en profitèrent pour enrichir leur collection de photos et de selfies. Oh, j'avoue. J'avoue. Selfie avec en arrière-plan la voiture de Sarkozy qui attend avant d'entrer en prison. Moi, je veux, hein. Non, mais... J'avais été trop impatient d'être jeté en prison. Je souriais intérieurement de cette nouvelle incongruité. Je finis après de longues minutes par être autorisé à franchir l'imposant portail en acier de la maison d'arrêt. Je l'avais vu dans des films ou des reportages, jamais de visu. En même temps que je voyais la lourde porte glisser sur son rail avec une lenteur solennelle, je pensais à l'ironie de la situation et à cette vie si étrange qui est la mienne. Pourquoi ai-je vécu tant de situations si extrêmes ? Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, le 320535. Mesdames et messieurs, si vous cherchez un mot de passe pour votre ordinateur, le 320535, numéro d'écrou de Nicolas Sarkozy. C'est ainsi que j'allais désormais être identifié. 4 jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, reçu par le président Emmanuel Macron en personne au palais de l'Élysée. A-t-on jamais imaginé un contraste plus saisissant, une situation plus ubuesque ? Je devais me pincer pour accepter cette réalité. La vérité m'oblige à dire que je ne l'acceptais pas. C'est vrai que j'avais oublié, merci Nicolas Sarkozy de nous le rappeler, mais 4 jours avant son incarcération, Nicolas Sarkozy a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron en personne. Ça doit faire bizarre en 4 jours. Page 111. Avant mon incarcération, je vécus 2 autres moments particulièrement émouvants. Le premier fut organisé par Véronique Vacher, une nouvelle fois à la manœuvre, et l'un de mes chers amis, Laurent de Gourcuff. Ce dernier, jeune et brillant entrepreneur, est connu pour avoir créé de toutes pièces le groupe Paris Society, qui possède certains des plus beaux établissements de restauration de la capitale. Véronique avait eu la très bonne idée d'inviter tous mes anciens collaborateurs. Ceux qui m'avaient accompagné à l'Élysée, à Beauvau, à Bercy, à la mairie de Neuilly ou au département des Hauts-de-Seine, ainsi que mes avocats, afin que nous nous retrouvions pour une dernière soirée chaleureuse et amicale avant la prison. J'eus la surprise de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, mais qui avaient tenu à être là pour nous entourer et nous donner de la force. Les unes avaient été mes secrétaires, les autres des collaborateurs de haut niveau. D'autres encore, des membres de ma sécurité. Tous étaient là, unis par l'amitié, sans aucune notion de grade ou de titre. C'était bouleversant. Je me retrouvais des années en arrière. Leur patron allait bientôt résider à la prison de la santé, et pourtant ils étaient fiers de faire partie de mes amis et de tout ce que nous avions fait ensemble. C'était une magnifique leçon de courage et de fidélité. Seuls quelques-uns n'étaient pas venus. Cela n'en donnait que plus de valeur à la présence de tous les autres.
Vous avez compris comme moi ?
Seuls quelques-uns n'étaient pas venus. Cela ne donnait que plus de valeur à la présence de tous les autres. Ça veut dire... Ceux qui ne sont pas venus, j'ai bien noté. J'ai bien noté que vous n'étiez pas venus. Je prononçais quelques mots pour expliquer mon état d'esprit et affirmer que je n'avais pas peur de l'enfermement. Ils m'applaudirent à tout rompre. Carla et moi avions les larmes aux yeux. Cela faisait tant de bien de se sentir aimé à ce point. Tout dans la vie n'est pas qu'une question de calcul et d'intérêt. Il y a aussi de l'émotion, d'accord ? Il y a aussi de l'émotion et de l'amitié dans la vie. Ça va citer les absents. Ouais, c'est ça, ça va citer les absents. Page 34, d'accord. Page 34. Nous arrivâmes enfin à l'étage de l'isolement, situé au-dessus des cachots disciplinaires. Il y régnait un silence pesant. J'aurais pu croire les 11 cellules vides alors que je passais devant elles. En fait, elles étaient toutes occupées. Je franchis une nouvelle grille imposante. Le surveillant, qui me précédait, ouvrait les portes puis les refermait immédiatement. J'étais entouré de 3 agents pénitentiaires auxquels venait s'ajouter leur chef. Ce dernier, souriant et sympathique, me glissa. « J'ai hâte de parler foot avec vous, même si je suis un supporter de Marseille. » Nous arrivâmes devant la cellule numéro 11, celle qui m'était destinée. Il fallut presque une minute pour ouvrir tous les verrous et loquets divers qui la ceinturaient. Le directeur m'indiqua qu'il me laissait quelques minutes avant de revenir me chercher pour m'expliquer les règles de ma nouvelle vie. La porte se referma dans le fracas des verrous. J'étais enfin seul. Mon sac m'attendait. Il avait été déposé la veille. Le tour des lieux fut vite fait. Un simple regard me suffit. 12 mètres carrés. Un lit solidement fixé au mur par des plaques renforcées. Un petit bureau en bois clair, une douche, un réfrigérateur, une plaque chauffante, une télévision, le tout dans la même pièce. Je me trouvais chanceux d'être seul. J'imaginais les autres détenus s'entassant parfois à 3 ou 4 dans le même espace. Bonne nouvelle, ma cellule comportait 2 fenêtres consolidées. Chacune d'elles avait été obstruée par un double système de barreaux et de grillages. L'évasion n'était guère envisageable, en tout cas pour un prisonnier comme moi.
Vous imaginez Sarko qui s'évade de prison ?
Je pouvais même les ouvrir. C'était un privilège pour celui qui aurait pu souffrir de claustrophobie. Hélas, d'imposants panneaux de plastique s'élevaient devant mes fenêtres, jusqu'à 3 mètres de hauteur. Cela avait l'avantage que l'on ne pouvait pas me voir et le désavantage qu'il m'était impossible d'apercevoir le ciel, un oiseau volé ou un arbre frissonner dans le vent. Je ne pouvais même pas me rendre compte du temps qu'il faisait. Soleil, pluie, brouillard, tout ceci désormais me devenait étranger. En m'asseyant sur le lit, qui n'était pas fait...
Ah oui, c'est vrai. C'est un détail, hein. Il n'était même pas obligé de le mettre, mais il a noté le fait que le lit n'était pas fait. Le lit, ah voilà. Donc vous le saurez, Française, Français, en prison, votre lit n'est pas fait quand vous arrivez.
En m'asseyant sur le lit qui n'était pas fait, j'eus un choc. Je n'avais jamais senti, y compris à l'armée lors de mon service militaire, un matelas plus dur. Une table aurait presque été plus souple.
Oh, le lit n'était pas fait. Le directeur de la prison, vous pourriez faire mon lit, s'il vous plaît?
Ouais, c'est ce que disait Adèle dans sa chronique sur Brexit, que Nicolas Sarkozy a fait son service militaire dans le 15e arrondissement de Paris, à Ballard, et que donc il rentrait le soir dormir chez lui à Neuilly-sur-Seine. Donc le lit de la caserne. Page 52. Page 52. Page 52. Non, jusqu'à présent, c'est pépite. Hein. Jusqu'à présent, c'est pépite. Page 52. Cet incident regrettable. Ben non, je ne peux pas commencer comme ça sans vous lire l'incident regrettable. La journée s'écoulait avec une monotone tranquillité quand je fus prévenu que j'avais été menacé de mort par trois codétenus lors de ma première nuit. Une vidéo diffusée par des prisonniers en direct de leur cellule appelait très explicitement à venger Kadhafi sans délai. Les policiers n'avaient pas dormi de la nuit. L'administration se montra diligente, puisque les trois auteurs furent identifiés en 24 heures. C'était déjà cela. Le pédigré du suspect principal faisait froid dans le dos. L'individu de 27 ans avait déjà été condamné à 13 années de prison pour extorsion de fonds et coups et blessures sur une personne en raison de son orientation sexuelle. Charmant personnage. Ses complices n'étaient guère plus recommandables. Je me demandais vraiment où j'étais tombé et comment m'extraire de ce cauchemar. Sans être paranoïaque, on pouvait espérer un meilleur accueil. Dans une prison? Je sais pas. J'étais malgré tout rasséréné par cette rapide arrestation, mais aussi perplexe quant à l'utilisation de tous ces portables au sein d'une prison si sécurisée. Il est vrai qu'il n'y avait pas moins de 900 détenus entassés dans le bâtiment où résidaient mes agresseurs. Agresseur est écrit entre guillemets. J'étais sans doute l'un des rares ici à ne pas disposer du moindre téléphone portable ni d'ordinateur, alors que je ne mettais en danger personne et que, bien évidemment, je respectais les règles de la prison scrupuleusement. Le directeur est venu m'expliquer la situation. Il m'est apparu embarrassé et sentait qu'il serait heureux de mon départ le plus tôt possible. Moi aussi. Le pauvre devait se demander si chaque nuit allait serait semblable à celle que nous venions de vivre. Privilégié comme détenu, quand même. Tu te fais menacer de mort. T'as le directeur en personne qui vient t'expliquer qu'il a fait trois arrestations. Est-ce qu'il a le droit d'avoir le casier des autres prisonniers? Non, je pense pas qu'il avait le casier. Je pense qu'on lui a filé l'info. C'est peut-être les gardiens qui lui ont dit. S'il avait eu accès à la promenade collective, il l'aurait appris. Cet incident regrettable permit de clore rapidement la polémique naissante sur ma sécurité en prison. Les députés écologistes et de la France insoumise exigeaient que je sois considéré comme un détenu ordinaire. Leur conception d'une égalité caricaturale autant que sectaire était offensée à l'idée que je puisse recevoir un traitement particulier. Le débat avait enflé à l'occasion des déclarations du garde des Sceaux qui souhaitait venir me rendre visite pour s'assurer des conditions de ma sécurité. Louable intention. La preuve venait spectaculairement d'être apportée que ce n'était sans doute pas une initiative superflue. Ces parlementaires sourcilleux omettaient de rappeler qu'ils avaient eux-mêmes rendu visite à plus de 10 reprises en prison à Georges Ibrahim Abdallah, terroriste d'extrême gauche, condamné pour l'assassinat de 2 diplomates américains et israéliens. Visiblement, cet individu et moi-même n'étions pas des détenus ordinaires, mais pas pour les mêmes raisons. J'avais la faiblesse de penser que les miennes étaient meilleures. Nicolas Sarkozy se compare à Georges Ibrahim Abdallah pour justifier d'avoir un traitement particulier en prison. Ça convaincra des gens. pas les mêmes ordres de grandeur. Ouais, non, effectivement. Plus loin dans le bouquin, il se compare à Dreyfus. Ah ouais? Putain, c'est ouf. Il est en tête des ventes de son bouquin. Ouais, j'ai vu qu'il avait été voté, qu'il avait été en tête des ventes à 100 000 exemplaires vendus. Qui sont les gens qui achètent ça? Page 54. Page 54. Alors, certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. L'affaire Dreyfus prospéra sur la base de faux documents. La mienne débuta sur la base du faux de Mediapart, doublé de faux témoignages de Takieddine et du clan Kadhafi. Ces faits sont désormais avérés. Dreyfus fut d'abord dégradé devant le front des troupes. On lui retira ses galons et ses décorations. Je fus exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation, sans même attendre l'issue de mon recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été relégué sur l'île du diable dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'eus bien davantage de chance que lui. Mon crime aujourd'hui serait-il de ne pas être de gauche? C'est vrai que c'est pas bien. Mon crime aujourd'hui serait-il de ne pas être de gauche? Ces dernières années, on ne peut que constater la célérité autant que la sévérité de la justice lorsqu'il s'agit de responsables de droite. Quand l'ancien ministre du budget de François Hollande dut reconnaître, après avoir menti aux Français et à la représentation nationale, qu'il était titulaire d'un compte bancaire à Singapour, richement doté, sans qu'il ait payé le moindre impôt, personne ne s'indigna qu'il n'ait pas passé une journée en prison. Tant mieux pour lui, mais c'est bien la preuve du deux poids deux mesures. Ah, il se compare à... Merde, comment il s'appelait? Cahuzac. Après, Cahuzac, il a été dégagé du gouvernement. Hein. C'est pas le cas de tous les ministres, mais... Si on enfermait tous ceux pas à gauche, les prisons suffiront pas. Ah bah ça... Il a été en prison en plus. Cahuzac, je me souviens pas s'il a fait de la prison. Il a été condamné à rembourser, il a été condamné à plein de trucs, mais... Bracelet? Il a eu un bracelet, Cahuzac? Je me souviens pas. Je vous avoue, je me souviens pas. Il y a personne de gauche en prison. Non, il n'y a personne de gauche en prison. Tous les prisonniers sont de droite parce qu'ils ont été condamnés par les juges rouges. C'est ça le truc. Ah putain. Non, c'est assez goldé. Hein. Pour reconnaître que c'est assez goldé. Page 63. Page 63. Alors... Les amis n'étaient pas en reste. Les périodes où les sentiments sont portés à leur paroxysme révèlent les tempéraments en apportant leur lot de bonnes surprises et de grandes déceptions. J'avais bien vu en quittant mon domicile pour la santé que beaucoup de mes proches étaient profondément bouleversés. Nombreux étaient ceux qui ne pouvaient dissimuler leurs larmes. Il y a eu tant d'initiatives touchantes et merveilleuses que je ne peux toutes les citer. Je garderai cependant un souvenir ému des recettes de cuisine qu'Emmanuel Mignon, qui fut ma directrice de cabinet à l'Élysée, a tenu à me faire parvenir pour masquer son inquiétude quand elle apprit que je ne me nourrissais que de laitage, ignorant les repas de la prison.
Elle avait consigné le temps de cuisson des pâtes, le minutage d'un œuf dur ou d'un œuf à la coque. Parce que c'est Nicolas Sarkozy, il a besoin qu'on lui écrive un petit papier pour le temps de cuisson des pâtes ou le minutage d'un œuf dur. Avec le minutage d'un œuf dur, faut s'en souvenir, hein, c'est pas facile. Mais c'est bon, il a une directrice de cabinet. Elle souhaitait vivement que je me serve de la petite plaque chauffante de ma cellule. Elle m'a sans doute toujours vu plus fort et surtout plus habile que je ne le suis. C'est honnête. J'ai dû la décevoir, mais son intention était si gentille. Je ne voulais pas utiliser mon temps d'enfermement à cuisiner. Cela étant, j'ai tant aimé ce geste venant d'une personnalité au caractère rude, mais dont le cœur est si généreux. Eh bien, voilà. Donc Nicolas Sarkozy, il a son ancienne DIRCAP qui lui a envoyé le temps de cuisson des pâtes. Page 94, fort bien. Fort bien, fort bien, fort bien. Une amie alla même jusqu'à me recommander d'interroger Éric Dupond-Moretti pour savoir s'il serait d'accord pour intégrer ma défense. Je déclinais, sans aucun état d'âme, cette étrange proposition. D'abord parce que je ne pensais pas que choisir l'avocat le plus détesté des magistrats aurait été dans ma situation un choix particulièrement pertinent. Oh le tir. Ensuite, parce que j'ai toujours trouvé sa personnalité sans finesse. Et je ne souhaitais en aucun cas utiliser ce que l'on appelle parfois les défenses de rupture. Je voulais le droit et rien que le droit. J'aspirais à ce que l'on m'applique celui-ci dans sa rigueur sans que je ne sois considéré ni au-dessus ni en dessous des lois. Enfin, ce bretteur n'avait rien trouvé de mieux que de m'attaquer violemment au moment où le tribunal décidait de me jeter en prison, me reprochant d'adopter un système de défense à la Trump. Un comble venant d'un homme connu pour ses outrances. Oh, ça tire! Le paragraphe entier, là, c'est pour la gueule à Dupond-Moretti. Hein. Ah, il règle ses comptes de ouf. Hein. Je confirmais donc à mes avocats la confiance que j'avais en eux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous avions obtenu, la peine exceptée, beaucoup de satisfaction du jugement du tribunal correctionnel. Et les juges rouges, et les juges rouges, le système qui oppresse la liberté, le capitaine Dreyfus. Nous avions obtenu beaucoup de satisfaction du jugement du tribunal correctionnel. Le travail de mes conseils avait porté ses fruits sur bien des aspects, puisque j'avais été relaxé de 3 des 4 infractions pour lesquelles j'avais comparu devant le tribunal. Et pas des moindres, puisque j'étais relaxé des délits de corruption, de financement illégal et de recel de détournement de fonds publics qui constituaient les faits les plus graves. Voilà pour la page 94 sur Dupond-Moretti. C'est un live de lecture de Sarkozy. What have you done? Mais c'est bientôt Noël. Je vous offre mon cadeau de Noël. Ça me fait plaisir. Je veux vous partir en vacances en gardant un bon souvenir de ma chaîne Twitch, de manière à ce qu'en janvier, vous renouveliez votre sub. Page 79. Merci Kakupsikat pour les 5 subs offerts au chat, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup. Merci. Quelle dignité. Ouais, quelle dignité. Page 79. Au final, c'était le spectacle de la comédie humaine dans ses grandeurs et ses petitesses, ni plus ni moins. Dans cette vie politique tellement déstabilisée, sans cap, sans boussole, sans leader, chacun essayait comme il le pouvait de tirer son épingle de ce qui n'était hélas plus un jeu. Je ne leur en voulais pas. Ce monde a été le mien. Je connais d'expérience les sacrifices qu'il impose à ses acteurs. Je ne le renierai jamais. Les soldats de la politique étaient en train de payer cher la faiblesse de leur chef. Je vais peut-être vous relire les paragraphes d'avant parce que je ne sais pas de quoi il est en train de parler. J'ai été très impressionné par la violente prise de position. Merci Jeff. J'ai été impressionné par la violente prise de position après ma condamnation du très calme Alexis Brézet, directeur du Figaro. J'ai honte de la France. Fallait-il que le choc soit violent pour que cet homme sage et pondéré en arrive à ce point d'exaspération? Merci Jeff qui offre un sub à Nicolas Sarkozy et à Victor Hugo. Je pourrais dire la même chose de Vincent Trémollet de Villers. J'ai eu beaucoup d'autres témoignages humains et donc touchants de journalistes que je connaissais à peine. Jusqu'au très militant Patrick Cohen qui adressa un message à Véronique Vacher pour qu'elle me transmette ses pensées amicales au moment de mon incarcération. Il ne s'en est pas vanté publiquement. Il a même par la suite fait plusieurs interventions peu amènes. Le courage a ses limites, mais j'ai apprécié son geste. Mais attendez, Patrick Cohen, c'est pas le petit soldat de l'extrême gauche qui complote contre la droite dans des cafés? Je comprends plus rien. Il n'a pas été jugé hier, Patrick Cohen, par le tribunal inquisitorial de l'extrême droite? Je comprends plus rien. Oh là là. Bah d'ailleurs, il le présente comme le très militant Patrick Cohen. Le très militant Patrick Cohen. Dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ça veut dire ce gauchiste. Ce gauchiste de Patrick Cohen m'a envoyé un gentil message. Puis il m'a fumé la gueule dans ses chroniques. Le courage a ses limites.
C'est vraiment...
Le courage a ses limites, mais j'ai apprécié son geste. Moi, j'ai pas envoyé de petits mots à Nicolas Sarkozy avant son incarcération. Faut que je revoie mes textos. Je suis pas sûr de lui avoir envoyé un petit mot. Au final, c'était le spectacle de la comédie humaine, dans ses grandeurs et ses petitesses, ni plus ni moins. Dans cette vie politique tellement déstabilisée, sans cap, sans boussole, sans leader, chacun essayait comme il le pouvait de tirer son épingle de ce qui n'était hélas plus un jeu. Elle est trop longue cette phrase. Je ne leur en voulais pas. Ce monde a été le mien. Je connais l'expérience, les sacrifices qu'il impose à ses acteurs. Je ne le renierai jamais. Les soldats de la politique étaient en train de payer cher la faiblesse de leur chef. Les Chinois n'ont pas tort de dire que le poisson pourrit par la tête. Il y a peu de secteurs où le leadership est plus nécessaire que dans la politique. Elle est le domaine du vertical, pas de l'horizontal. Un chef, une équipe, un projet. Je ne connais rien de plus simple et surtout rien de plus efficace quand on veut accéder aux responsabilités suprêmes. Quand les chefs défaillent, les soldats perdent leurs repères.
Bon, ça, c'est la partie un peu philo, visiblement. C'est moi le chef. Ouais, c'est toi le chef, ouais. En fait, on est tous des chefs. C'est ça, l'horizontalité, on est tous chefs. Quelque part.
Je viens d'arriver, ça donne quoi pour le moment? C'est coécrit avec ChatGPT? Non, c'est pas coécrit avec ChatGPT. Pour le coup, je ferai pas le reproche à Nicolas Sarkozy de pas l'avoir écrit lui-même, parce que on sent sa plume quand même. Ça donne quoi? C'est délicieux, hein, c'est délicieux. Il ne nous épargne rien sur ses premiers jours en prison, ses réflexions politiques. Je suis dans l'armée et quand les chefs défaillent, on s'en sort très bien, je trouve.
Est-ce que vous avez déjà fait la page 69? Bah évidemment, Laure, on t'a pas attendu. C'était la première page qu'on a lue, la page 69. Après, on a lu la page 49.3. Vivement le deuxième tome. Ah bah oui, carrément. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit comme page? Y a combien de pages dans ce torchon? Page 119, ok, page 119. Il y a combien de pages? Il y en a 215. 200, 212. 119, tu m'as dit? 119. L'âge de Wahib Nasser et sa faiblesse physique m'ont fait penser au sort du malheureux Boualem Sansal. Ce jour-là, j'ai beaucoup réfléchi sur sa situation. Enfermé alors qu'il était octogénaire et malade dans les geôles du régime algérien, autrement plus inconfortable que celle que j'occupais. Sa détention s'éternisait presque une année au moment où j'écrivais ces lignes. Je mesurais la force qu'il lui fallait avoir pour tenir sur une période aussi longue. Cela m'obligeait à relativiser ma situation et à me demander si j'aurais eu sa résilience. La santé me poussait à revoir et surtout à approfondir mes sentiments à l'endroit des autres. Je ne suis pas certain que j'aurais pensé ainsi avant d'avoir vécu cette expérience de la prison moi-même. Le proverbe populaire dit vrai : à toute chose, malheur est bon. C'était le dicton du jour. C'est pas ouf, hein. Page 42. Donc la prison lui a permis d'être plus humain. C'est ça la morale. Page 42. Seul éclairci dans cette journée sombre, Carla me rejoignit au parloir de la santé. Merci Béberte. Cette visite, dès le premier jour, constituait un immense soulagement. Je ne l'avais quittée que depuis quelques heures. Elle me manquait déjà cruellement.
Oh, c'est mignon.
Un surveillant vint m'avertir qu'elle était en chemin. Je devais me préparer à l'extraction de ma cellule. Ce fut rapide. J'enfilai un jean et une des chemises que j'avais emportées. Le chemin vers le parloir était assez long. Il me fallut traverser la moitié de la prison sans croiser le moindre détenu, toujours entouré de 4 surveillants de la pénitentiaire et de 2 policiers de ma sécurité. Nous arrivâmes dans un petit couloir sombre qui me sembla être un rez-de-chaussée. Carla m'attendait devant la porte. Elle se jeta littéralement dans mes bras.
Oh.
Ses traits étaient marqués, elle était blanche. Je la sentais dévastée. J'étais si heureux de la retrouver et de pouvoir la serrer contre moi. On nous introduisit dans une pièce de 5 mètres carrés à peine, sans fenêtre, avec un néon au plafond. Les surveillants fermèrent la porte à double tour. On n'est jamais trop prudent. Nous aurions pu fuir. Hein ? Pardon, j'ai bugué. Nous aurions pu fuir. L'endroit n'était pas triste. Il était glauque. Il y avait une table en formica et 2 chaises en plastique. Pas un verre d'eau, pas un café, pas une once d'humanité. Je m'excusais auprès de Carla de la recevoir de cette manière, comme de lui faire subir toutes ces horreurs. Elle éclata de rire tant la situation lui paraissait improbable.
Ça va, elle a bon esprit, Carla.
Cela faisait du bien de la voir ainsi. Nous avions tant de choses à nous dire.
Ça va, vous avez passé quelques heures séparées. Moi, ma meuf, quand elle part quelques heures, je suis plutôt soulagé. Hein. C'est pas vrai, j'ai pas de meuf.
Je mens. Je mens. Abonnez-vous. Carla ne pouvait me lâcher la main. Nous étions émus et heureux. Elle me trouva bonne mine, ce qui la rassura. Au bout de 50 minutes, la directrice adjointe de la santé frappa à la porte pour nous signaler, avec délicatesse mais fermeté, qu'il me fallait déjà retourner en cellule. Carla avait les larmes aux yeux. Je la serrai dans mes bras. Une fois encore, je mesurais combien nous étions privilégiés de connaître cet amour qui avait si bien résisté à l'usure du temps. Ce moment partagé m'avait quelque peu rasséréné. J'étais presque apaisé. Il était 16 heures. C'est beau l'amour quand même. Non mais quand même, c'est beau. C'est mignon. Est-ce que les pages 13 et 14, 13 et 12, ça a été fait? Je sais pas. Vous vous souvenez des pages 13 et 12? Alors c'est le tout début du livre parce qu'il commence à la page 9. 12, 13. Bon, il parle d'un dîner de famille. Je pris la parole pour les rassurer de leur partager mon état d'esprit. Je m'efforçais de banaliser l'idée de la prison pour que les fantasmes habituels, lorsque l'on parle de l'enfermement, ne viennent ajouter davantage d'inquiétude et de stress à une situation qui en comportait déjà bien assez. La réalité était monstrueuse. Il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. J'essayais de me montrer gai et détendu, du moins autant qu'il m'était possible de l'être. Une nouvelle fois, je constatais que la monstration était plus efficace que toutes les démonstrations. Je ne l'ai pas. Faites ce que je fais est tellement plus pertinent que faites ce que je dis. Louis Sarkozy, demeurait silencieux pour masquer sa colère contre cette injustice. Je voyais qu'il réfrénait à grand-peine sa force et son tempérament. J'étais fier de son entourage. Jean se préoccupait de sa sœur, assumant son rôle de grand frère à la perfection, avec la profondeur et l'intelligence qui le caractérisent. Pierre apportait la décontraction de sa bonté naturelle. Il était une lumière pour chacun de nous. Et Giulia, du haut de ses tout juste 14 ans, faisait tout ce qui lui était possible pour faire face à la situation, exigeant même, malgré une forte fièvre qu'il avait saisie durant la nuit, d'aller avec ses frères à la rencontre des soutiens assemblés autour de la maison. Elle était malade et tenait à peine debout. Elle dit à sa mère « Je veux être aux côtés de papa. Il serait trop déçu si je lui manquais. Je ne peux pas lui faire cela. » Notre souhait de la protéger s'inclina devant la juvénile volonté. Aurélien, mon beau-fils, était là aussi, concentré, réservé, brillant et plein d'émotions. Le clan était au complet. Moi, si un jour je suis incarcéré, je vous invite tous à un repas de clan, comme ça. On réservera une grande table dans un grand resto et je ferai un discours. Et j'espère que vous serez émus. J'espère que vous ferez votre maximum pour contenir la colère et la rage face à l'injustice, et que vous resterez brillant. Et moi, je serai au maximum pour essayer d'apaiser votre peine. Il y aura à boire et à manger. Oh, s'il y a un buffet, je viens. Hein. Bah, je suis toujours brillant de toute façon. Voilà, tu écriras un bouquin. Ah ouais, faites-moi confiance. Il y aura des yaourts. Il y aura des yaourts. C'est quoi ton crime ? Je n'aurais commis aucun crime. Je serais resté droit. Et j'aurais été condamné pour ça. Par le régime et par le système. Ouais, ça va être ça. J'aurais du panache. Je partirais avec panache. C'est qui panache? Non, franchement, on se régale avec ce bouquin. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool à lire.
Je m'attendais à ce que ce soit vraiment relou. Et non, on est content. On imagine Nicolas Sarkozy en prison, ça fait bizarre. C'est marrant. C'est quand même mal écrit. C'est pas Baudelaire. C'est pas Baudelaire. Ni Hugo. Ni personne. Page 180. Page 180. De qui il parle ? Ah, je crois qu'il parle du directeur de la prison. Ouais. Alors, c'était passionnant pour moi de rencontrer et d'échanger avec un fonctionnaire qui, comme tant d'autres, se trouvait être de gauche, sans conviction religieuse et très attaché à son métier et à la façon de l'exercer. J'appris grâce à nos échanges que sa femme, qui travaillait dans le privé, avait un engagement syndical. Cela venait achever le portrait d'un couple, fier de ses engagements professionnels comme de ses convictions. C'était très respectable. Malgré nos histoires et nos références visiblement assez éloignées, nos discussions étaient faciles et même fluides. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche de la part de la justice et des juges rouges d'avoir collé à Nicolas Sarkozy un directeur de prison de gauche. Vous vous rendez compte la perfidie de ces gens-là ? La perfidie. Non seulement ils l'embastillent, mais en plus, ils lui mettent comme seul interlocuteur un mec de gauche. Salaud, c'est moche ce que vous faites. C'est moche. Je tombe de mon placard. Ah ouais, page 46. Page 46. Page 46. Ah, le téléphone. Téléphone. Un téléphone était installé dans ma cellule, comme dans celle des autres détenus. Il s'agissait d'un poste fixe. Je devais me tenir debout pour l'utiliser, car il était fixé au mur à hauteur d'homme. Son utilisation n'était guère aisée. Personne n'avait la possibilité de m'appeler. Je pouvais le faire, mais uniquement pour des numéros qui avaient été préalablement enregistrés et agréés par l'administration pénitentiaire. Il convenait ensuite de composer pas moins de 10 chiffres qui constituaient autant de codes nécessaires pour obtenir la ligne permettant enfin d'atteindre le correspondant désiré. Vous vous rendez compte des numéros de téléphone à 10 chiffres ? Non mais c'est fou. C'est fou. C'est terrible ce qu'on fait vivre aux prisonniers politiques dans ce pays. Un véritable parcours du combattant. J'appelais ce soir-là tous mes enfants pour les rassurer en affirmant que tout allait pour le mieux. Ils n'en crurent pas un mot, mais jouèrent le jeu afin de me protéger à leur tour. Merci Jeff, qui offre un sub. Merci beaucoup. Carla me fit promettre de l'appeler durant la nuit si je n'arrivais pas à dormir ou si je rencontrais la moindre difficulté. Je me promis à l'inverse de ne rien en faire. Elle avait déjà subi bien assez de choses. Non mais moi je suis désolé, je veux un couple comme le couple Sarko-Carla. Hein. Moi je veux ça dans ma vie. Hein. Qui c'est qui... Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous une fois qui m'a dit « Jean, n'hésite pas à m'appeler cette nuit si t'as du mal à dormir ». Personne ne m'a jamais dit ça. Oh. Sarko a un petit cœur tout mou. C'est couple Gaulle. Ah non, mais couple Gaulle de ouf, hein. Le couple Carla... Carla Sarko... Page 199, Forbiang. Page 199.
Mes conseils, ça veut dire mes avocats. Mes conseils souhaitaient que nous évoquions la question que pourrait poser la Cour d'une éventuelle pression sur des témoins ou sur d'autres acteurs de cette affaire. J'étais étonné de leurs préoccupations. Je n'avais jamais fait le moindre écart quant à l'application de mon contrôle judiciaire lors de ces 6 dernières années. Pourquoi commencerais-je ? Les faits remontaient à près de 20 ans. La déclaration des uns et des autres avait eu le temps d'être gravée dans le marbre. Je jouais malgré tout le jeu de la préparation la plus sérieuse possible. Je voulais vraiment mettre tous les atouts de mon côté. Ne prendre aucun risque. L'enjeu était ma liberté. Ce qui n'était pas rien. Je l'attendais avec une impatience que chacun peut imaginer. De plus, je commençais à m'inquiéter pour Carla. Elle avait tenu le choc de façon impressionnante jusqu'ici, mais je sentais que sa résistance commençait à s'effriter. Elle était fatiguée et supportait de plus en plus mal cette séparation interminable. Lorsqu'elle me visitait, elle était capable de donner le change pour ne pas ajouter de la pression à celle que je subissais déjà. Mais je voyais bien qu'il était temps que ce cauchemar cesse. Pour ce qui, je l'espérais, devait être notre dernier parloir, elle était venue accompagnée de Julia et Pierre. C'était un véritable rayon de soleil. Les enfants étaient assez en forme et notre fille n'était pas impressionnée par le contexte carcéral. Nous avions au moins réussi à démystifier cet enfer pour eux. C'était aussi inespéré qu'heureux. En arrivant, Julia me glissa. « C'est surprenant, même en prison, tu arrives à être élégant. »
Oh.
Dans son esprit, cela signifiait que j'avais l'air en bonne forme. Je lui répondis en souriant « N'oublie jamais ce que nous sommes en train de vivre. Même dans les pires moments, il faut garder sa dignité. Tout faire pour ne jamais se laisser aller. Les conséquences en seraient trop graves. » Pierre était attentif à Carla et à sa sœur. C'était beau, car lui aussi souffrait sans le dire. J'avais de plus en plus de mal à faire abstraction de la colère qui me saisissait en voyant ma famille pâtir de cette épreuve injuste. Il n'aurait pas... C'est vrai qu'il aurait pu lui dire, un conseil paternel, à ton enfant, ça pourrait être de dire ne détourne pas des fonds publics libyens pour financer ta campagne électorale. Mais bon, bah, voilà, après, c'est. Mais bon, c'est pas grave. Qui est responsable de cette situation imposée à sa famille ? Bah, les juges rouges, la gauche. Pas compliqué, hein ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'on lit d'autre comme page ? Mon père m'a fait le même conseil quand j'avais 12 ans.
Ouais.
La fin, la dernière ? La dernière ? Alors, voilà. Au final, cette épreuve judiciaire si pénible m'aura ouvert les portes de cet amour dont j'ai été le réceptacle, en dépit et grâce aux barreaux de cette prison. Je n'ai ressenti aucune humiliation. J'ai puisé au fond de moi une force que j'ignorais. Avec la gravité qu'imposait la situation, j'ai compris la chance de pouvoir compter sur Carla comme sur toute ma famille. Avec tous ces témoignages de Français, j'ai senti combien la France est profondément ancrée en moi et combien je lui suis attaché. Avec l'épreuve, j'ai dû réfléchir au bonheur, à sa fugacité et au prix qu'il fallait payer en retour. Les hauts et les bas, si intimement liés. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout produit son lot de conséquences. Avec ce livre, j'ai dit la vérité de mes sentiments sans les travestir. Je n'ai de compte à régler avec personne si ce n'est avec le mensonge et avec Jean Massier. Non, pardon, excusez-moi. Celui-ci, je le pourfendrai sans pitié et avec lui ses auteurs. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je me dois de la tenir. Si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes voir les malades et les désespérés. Je passerai la journée avec eux et je m'immergerai en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Quelques mois auparavant, la lecture de Zola m'avait fait découvrir Lourdes, à laquelle il a consacré un livre magnifique. Cela m'a tellement aidé de penser à ceux qui souffraient bien davantage que moi. Je leur dois à eux aussi d'avoir pu tenir. Cette promesse sera donc honorée comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie.
Et là, il faudrait qu'il y ait une musique un peu épique qui parte avec des trompettes et tout, parce que voilà quoi.
Les Annales Gaïb, ouais, les Annales Gaïb. Hein. C'est un chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine. C'est un chef-d'œuvre du récit de parcours de vie face à l'adversité. Un truc genre Seigneur des Anneaux, ouais, c'est ça. Bientôt l'adaptation en film. Au bas jour de prison avec les visites de Carla tous les jours. Non, je sais pas quoi en penser. En fait, on a déjà tout dit, hein, sur ce bouquin. Combien de chiffres de vente? Il a été vendu à 100 000 exemplaires. Il coûte 20 euros. Nicolas Sarkozy doit toucher 3 euros par livre vendu. Ouais, il s'est fait 300 000 balles, tranquille. Temps de voir venir. Il prend minimum 30%. Tu penses qu'il négocie 30%, Sarko? Ouais, en même temps, Sarko... Sarko, il a les moyens de négocier 30%. 30%, c'est beaucoup, quand même, hein, dans l'édition. Il y a surtout un immense avaloir, sans doute. Ouais, sans doute. C'est qui l'éditeur, d'après toi? D'après toi. C'est ce bon vieux Vincent, évidemment. Bah, quand même, on va pas... Jamais un auteur a pu vendre des livres à des gens qui le détestent. Faut le dire, qu'il y avait du pognon à se faire. Ouais. Ouais, non, carrément. Ah bah, je suis content, il va rejoindre ma bibliothèque. Il va rejoindre ma bibliothèque dans laquelle j'ai... J'ai moult bouquins plus ou moins anecdotiques. Celui-là, c'est quand même un bouquin qui fera date. Hein. Je suis désolé, un ancien président de la République qui a fait de la prison. C'est marrant. C'est marrant. Ça marque. Est-ce que tu vas aller te le faire dédicacer? Ce serait drôle. Ce serait drôle. Tu vas pas le lire en entier? Je pense pas. Si vraiment je me fais chier pendant mes vacances, il y a moyen que je le bouquine. Mais en vrai, ça m'emmerde. Enfin, faut le faire dédicacer par le juge qui a prononcé la condamnation. Oh. Meilleure idée. Tu te fais dédicacer le livre de Sarko par le juge qui l'a condamné. Ça, c'est drôle.
Et après par Sarkozy. Et après par Sarkozy. On aura le livre de Rachida Dati aussi, vous pensez? Bah, je ne sais pas, elle a juste été perquisitionnée, Rachida Dati. L'enquête est en cours, elle n'est pas encore condamnée. Elle a un jugement qui est prévu dans le cadre de l'affaire Renault. Jugement qui est prévu en septembre 2026, je crois. Et elle a deux autres enquêtes qui sont ouvertes. Ouais, ça pue un peu pour Rachida Dati. Enfin, ça pue un peu, j'en sais rien, ça va dépendre du jugement. Est-ce que moi aussi je peux me faire payer 300K pour regarder la chaîne de Jean Massier? Non. En revanche, tu peux te payer un abonnement à ma chaîne. Ça tu peux. Ça, c'est possible. Il suffit d'une simple carte bleue. Vous savez, ça va très très vite. Hein. Il se passe quoi si elle est condamnée après avoir été maire de Paris? Est-ce qu'elle doit démissionner? Oui. Alors, je ne sais plus exactement quelles sont les règles précises. Mais les élus locaux doivent quitter leur mandat s'ils sont condamnés. Ah bah merci Jeff qui offre un sub du coup. Merci beaucoup. Les élus locaux doivent quitter leur mandat, ouais. Au procès RN, un maire a démissionné. Oui, mais Marine Le Pen a été démise de son mandat de conseillère régionale ou départementale, je ne sais plus, suite à sa condamnation pour inéligibilité. En fait, c'est les députés qui sont jugés inéligibles ne perdent pas immédiatement leur mandat de député. On attend la condamnation définitive avant de prononcer l'incompatibilité. Voilà. Alors que pour les élus locaux, c'est plus strict. S'il y a une exécution provisoire. Ouais, s'il y a une exécution provisoire. Oui, t'as raison, t'as raison. Oui, t'as raison. Donc. Pourquoi ce serait plus strict pour les élus locaux? La raison à ça, c'est que c'est une question de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, les députés et les sénateurs, c'est plus sensible que les élus locaux. C'est plus grave. Et le but, c'est d'éviter qu'un juge seul puisse faire basculer des équilibres politiques pour l'ensemble du pays. Juste en éjectant un député comme ça. Donc on a créé des règles. On a créé des règles en disant que un député inéligible ne perd son mandat de député que si sa condamnation est confirmée de manière définitive. Ça veut dire qu'il y a eu un appel, ça veut dire qu'il y a une cassation, etc. En fait, on fait gaffe avec l'Assemblée nationale parce que l'enjeu très important et très grave. Si elle est condamnée à l'inéligibilité en janvier, est-ce qu'elle devra démissionner de son mandat de députée? Marine Le Pen, son procès en appel, c'est quand? C'est janvier? C'est dès janvier? Je croyais que c'était en mars, un truc comme ça. Non, je confonds. Bon, peu importe. Peu importe. Non, ce n'est qu'un jugement en appel, donc elle restera députée. Je crois qu'il y a encore la cassation. Il faut encore attendre la cassation. Oui, mais décision cet été. Ah, c'est ça, donc c'est procès en janvier pour Marine Le Pen, en appel, hein. Procès en janvier 2026,
Décision en été. À l'été 2026. Ok. Pourtant, c'est plus grave de laisser un député en place si au final il est condamné définitivement. Mais tu peux pas préjuger. Tu peux pas préjuger de la décision finale. Et Bardella, il a pas un procès qui arrive? Si. Bardella. Merci Serval Russe. Serval Russe. Merci, merci. Bardella visé par une plainte. Je sais pas. Sur les assistants parlementaires. Pour l'histoire du média training. C'est quoi le problème? Oui, non, mais il n'a pas commis de délit dans le média training. Pourquoi demander? Ils ont tous des casseroles. Oui, t'as raison, c'est plus simple. Puis surtout, ça nous permet de faire l'économie de la réflexion. Et ça, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Il a utilisé 130 000 euros pour son média training, ça j'avais vu, ouais, et ça vient de l'Europe, ces 130 000 euros. Oui, mais est-ce que c'est un détournement de fonds? C'était des fonds qui devaient servir à quoi? Parce que si c'est des fonds qui servent entre autres à des prestations d'accompagnement pour les groupes politiques et leurs responsables, c'est pas un délit. Si un candidat est élu durant la période judiciaire, durant une procédure judiciaire, est-ce que la procédure est suspendue le temps du quinquennat ou elle continue quitte à devoir condamner le président? Alors pour le président de la République, la procédure est suspendue parce que le président de la République ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Pour les autres mandats, la procédure continue. Je trouve que les gens ont en général un niveau argumentaire assez faible quand il s'agit de critiquer des personnalités politiques avec lesquelles ils sont de base pas d'accord. Le niveau des biais de confirmation est si élevé. Ouais, après, on peut pas tous dégainer des chiffres de la Cour des comptes pour argumenter. Enfin, parfois, on critique des politiques pour des raisons assez viles, je te l'accorde. Mais c'est pas pour autant que c'est pas valable. Puis c'est pas nouveau. Enfin, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais c'est pas non plus nouveau. On a quand même une petite histoire dans ce pays d'une vie politique dans laquelle il y a eu des critiques acerbes. Dans les journaux du 19e siècle et du début du 20e siècle, à la Belle Époque, les hommes politiques se faisaient étriller dans des articles de journaux, notamment sur leur physique. Il y a plein d'articles de journaux où on décrit
les députés, les ministres, président du conseil, comme étant laid, comme étant gros, comme étant empâté, machin, avec plein de... Je vous laisse imaginer le langage fleuri des journalistes de l'époque pour défoncer les politiques. Bon, aujourd'hui, on a un peu arrêté avec ça, ça fait plaisir. C'est plutôt bien. C'est toujours valide pour les femmes. Oui, moins quand même. Enfin, vous m'accorderez que c'est moins des journaux à grand tirage, Libération, Le Figaro, Le Monde. Ça s'amuse pas à faire ça, quoi. Honnêtement, je trouve que nous sommes bien trop permissifs envers nos hommes et nos femmes politiques. Beaucoup continuent d'être présents alors qu'ils sont multicondamnés. Bah, pour ce qui concerne les élus, ils sont présents parce que les gens ont voté pour eux. S'ils n'ont pas été condamnés à une peine d'inéligibilité, ils peuvent se présenter aux élections, ils peuvent être élus. Donc c'est leurs partisans qui le souhaitent. Est-ce qu'un changement du mode de scrutin pourrait clarifier l'Assemblée nationale? Bah, c'est pas sûr. Moi, je suis désolé, mais le scrutin proportionnel souhaité par la gauche, hein, qui veut l'instaurer, le scrutin proportionnel, si on l'applique demain, je vois pas pourquoi on n'aurait pas une Assemblée tripolarisée, hein. Donc, ça me dépasse qu'un casier judiciaire vierge ne soit pas requis pour des postes politiques, alors que pour n'importe quel emploi, c'est demandé. C'est parce que tu compares deux choses pas comparables, un mandat et un poste salarié, c'est pas pareil. Et par ailleurs, il y a des pays dans lesquels ça existe. Le casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections, notamment la Russie. Et devinez quelle est la grande spécialité du régime russe pour éliminer des opposants politiques et les empêcher de se présenter aux élections. Voilà. Donc voilà pourquoi le casier judiciaire vierge n'est pas une bonne idée pour des politiques. C'est une fausse bonne idée. On s'achète une bonne conscience collectivement en se disant qu'on a fait un truc bien, sauf qu'en fait, on a créé un système qui est d'une fragilité terrifiante et qui rend extrêmement facile d'éjecter des opposants politiques. Vous imaginez si Jean-Luc Mélenchon avait l'interdiction de se présenter à la présidentielle? Ça plairait pas à tout le monde. Emmanuel Macron, lui, n'a jamais été condamné à quoi que ce soit, à ma connaissance. Qu'on n'accorde aucun mandat aux personnes condamnées pour détournement de fonds publics et autres biens, abus de biens sociaux, ce serait un minimum. Mais ça existe, ça s'appelle la peine d'inéligibilité. C'est à ça que ça sert. On l'a mise dans le code pénal précisément pour permettre aux magistrats de décider de rendre inéligible une personne qui se serait rendue coupable de faits particulièrement graves, notamment des faits ayant attrait à la gestion de l'argent public. Mais. Enfin. Je suis premier à dire qu'il faut lutter contre la corruption et qu'il faut assainir beaucoup de choses, etc. Je me méfie juste de la facilité de la bonne idée un peu magique, qui en fait a des effets de bord franchement pas souhaitables. Le casier judiciaire vierge, c'est la garantie que beaucoup d'écologistes pourront plus se présenter aux élections. Il y a beaucoup d'écolos qui se sont retrouvés condamnés en justice pour des actions militantes. Du meilleur général, les personnes les plus pauvres, vous savez, je vais pas vous l'apprendre, que la délinquance est un phénomène qui touche plus les catégories les plus fragiles de la société. Et comme par hasard, les bourgeois, ça va plutôt bien pour eux. Des syndicalistes aussi, ouais, des syndicalistes aussi. Donc non, moi, le casier vierge, c'est une fausse bonne idée. Je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée. C'est quoi un casier judiciaire déjà? C'est une amende, une condamnation. Ce qu'on appelle casier judiciaire, c'est l'historique de tes condamnations par la justice ou à des amendes, effectivement, de contravention. Alors, il y a plusieurs casiers judiciaires en fonction de la gravité des peines que tu as reçues au cours de ta vie. Je ne me souviens plus exactement comment ça marche. Ce qu'on appelle les extraits de casier judiciaire sur les amendes, en gros, les amendes de la circulation, c'est le moins grave. Ensuite, tu as les délits et ensuite, tu as les crimes. On va dire que c'est à peu près comme ça que ça marche. Et donc, tu as des condamnations. Et ce qu'on appelle un casier vierge, c'est une personne qui n'a jamais été condamnée de sa vie. Il y a vraiment un casier où ton nom, c'est une image. À ton nom, c'est une image. Non, il n'y a pas vraiment un casier. Ce sont des fichiers. Aujourd'hui, c'est informatisé. Il y a deux parties distinctes au casier judiciaire. Pour être fonctionnaire, il faut la partie 3 vierge. Oui, voilà, c'est ça. En fonction du poste auquel tu candidates, on va te demander un extrait de casier judiciaire. On va te demander, pas à toi, mais à l'administration, un extrait de casier judiciaire pour vérifier que tu n'avais pas été condamné à des crimes, des choses comme ça. Et en l'occurrence, les crimes les plus graves. Le fait que tu aies commis un excès de vitesse il y a 5 ans, sur une route nationale dans le sud, c'est pas très grave. On va pas t'empêcher de devenir fonctionnaire parce que c'est pas. Donc moi je suis pour la peine d'inéligibilité. Je suis pour la peine d'inéligibilité. Je suis pour que dans notre arsenal pénal, il y ait la possibilité pour un magistrat de prononcer une inéligibilité contre une personne qui se serait rendue coupable d'un délit particulièrement grave au regard des fonctions électives auxquelles la personne prétend, ou a prétendu, ou pourrait prétendre. Peine d'inéligibilité à vie, c'est OK alors? Moi, je ne suis pas pour les peines à vie, d'une manière générale. Voilà, je ne suis pas favorable aux peines à vie. Je pense que pour un milliard de raisons, y compris philosophiques, il faut que la justice passe et que les choses évoluent. Et je suis désolé, mais une personne qui, à l'âge de 20 ans, a été condamnée pour trafic de stupéfiants, je vois pas pourquoi on l'empêcherait de devenir conseiller municipal à l'âge de 60 ans. Voilà. Il a eu le temps de faire du chemin, il a eu le temps de bouger, il a eu le temps de changer, il a eu le temps de plein de choses. On va pas aller chercher dans le passé des gens des trucs pour dire « Haha !» voilà, ça me saoule. Pareil sur la délinquance des mineurs. Pareil, la délinquance des mineurs, je suis désolé, un gamin de 14 ans qui fait des conneries. Je veux pas qu'on le lui reproche toute sa vie. Voilà, je veux pas qu'on le lui reproche toute sa vie. Je veux pas que ça l'empêche de faire quelque chose de sa vie à l'âge de 30 ans. Entre l'âge de 14 ans et l'âge de 30 ans, on a tellement changé. Enfin, je sais pas, ça veut pas dire que tout le monde devient un ange. Les gens peuvent rester des délinquants, des criminels, des machins, c'est possible. Mais pour les autres, enfin...
Hors de question que quelqu'un condamné pour un tel fait devienne élu à jamais, et vous êtes fou si vous pensez autrement. D'accord. Bah on est fou alors, hein. Qu'est-ce que je te dise? Mais du coup c'est sympa, l'ambiance est cool. Par contre, pointeur, terreau, pédo, c'est pas la même catégorie. Bah, effectivement, il faut mettre de la nuance dans les peines, il faut mettre de la nuance dans les condamnations. Enfin, je vous apprends rien en vous disant que la justice, quand elle condamne quelqu'un, elle jauge aussi la gravité des faits, l'implication, la responsabilité de l'auteur, sa reconnaissance des faits ou pas. Enfin, je vous apprends rien là, j'espère. Donc effectivement, oui, commettre un attentat terroriste et faire des centaines de morts, c'est pas tout à fait la même chose que faire un excès de vitesse. C'est pas pareil. Est-ce que les condamnés à une peine de prison, ce sera toujours inscrit dans leur casier judiciaire? Non. Alors, je connais plus les règles. Je t'avoue que je connais plus les règles, mais il y a des règles où les condamnations finissent par s'effacer au bout d'un moment. Pas toutes, évidemment, ça dépend de la gravité. Mais tes condamnations finissent par s'effacer, notamment les condamnations les moins graves. Mais si c'est des peines de prison, ça risque d'être inscrit dans ton casier judiciaire pendant assez longtemps, ouais. Sarkozy, il a un casier judiciaire maintenant? Oui. Sarkozy a un casier judiciaire, de fait, puisqu'il a été condamné en justice pour des délits assez graves. Donc, mais c'est une discussion intéressante, hein, au demeurant. Sur l'exemplarité des élus. C'est quoi la hiérarchie infraction, crime, délit? Délit, crime. Non, infraction. Une infraction, c'est le simple fait de ne pas respecter la loi. Donc tout est une infraction, en l'occurrence, quand on parle de ces sujets-là. Ensuite, dans la hiérarchie, il y a la contravention, le délit et le crime. La contravention, le délit et le crime. C'est ça la hiérarchie. Je vais appeler ça un crime. Ouais. Appelle ça un crime, ouais. Vous êtes un criminel, monsieur. Vous avez traversé en dehors du passage piéton. J'aurais plutôt dit un crimier. Je pense qu'un parti qui est multicondamné avec plusieurs membres condamnés dont sa présidente devrait être empêchée de présenter des gens aux élections pendant un certain temps.
Ouais, genre les écolos, quoi.
C'est une idée. Ça peut être pratique pour éliminer des forces politiques. Ça servira pas à grand-chose parce que tu peux créer un autre parti sur le côté qui défend la même chose. Et Sarko alors, délinquant ou criminel?
Délinquant. Nicolas Sarkozy a commis des délits. En tout cas, il a été condamné pour des délits. Il n'a pas commis de crime.
J'aime pas l'expression exemplarité parce que ne pas voler les gens que tu représentes, ça devrait juste être normal.
Oui.
Mais c'est pas ça l'exemplarité. L'exemplarité, c'est au contraire d'être mieux que les gens que tu représentes. Moi, j'ai toujours eu un chouïa de mal avec la. Avec un espèce de fantasme de perfection de la part de nos élus. Comme si, dans une espèce de démocratie grecque un peu éthérée, un peu vaseuse, les élus devaient être de blanches colombes qui n'ont pas de défauts. Pour avoir fréquenté quand même beaucoup, beaucoup d'élus, ils sont terriblement humains, ces gens-là. Hein. Ah ouais. Ils sont terriblement humains. Pour le meilleur comme pour le pire. Et les gens qui commettent des infractions au code de la route, il y en a beaucoup, c'est des élus. Ils sont pas meilleurs que les autres. Bon, putain, d'excès de vitesse en dépassant le camion blanc qui se traîne là. Bah ouais, oui, oui. Ils sont flashés et ils prennent une amende, bah voilà, comme tout le monde. On peut pas demander aux élus d'être plus exceptionnels que les autres et en même temps de se plaindre qu'ils sont hors sol.
Ouais.
Mais c'est, enfin, je sais pas comment dire. C'est aussi, il faut se rendre compte aussi d'un truc, c'est que c'est fou à quel point c'est facile de commettre un délit. Quand on est maire, quand on est vice-président d'un conseil régional ou départemental, quand on est élu, quand on est aux manettes. En fait, les règles des marchés publics sont tellement strictes sur les délais de communication des pièces, sur plein de trucs, etc. Tu peux tomber. Enfin, si tu fais pas gaffe, si tu bordes pas le truc et ça peut arriver que ça coince ou que ça frotte ou machin, tu peux te retrouver à la limite de la légalité. Ça va pas forcément être retenu contre toi, mais tu peux te retrouver dans des trucs un peu absurdes. L'envie de faire croquer les potes.
Bah, oula. Oui ou pas, hein. Faites attention, sans faire exprès, vous pouvez financer votre campagne électorale avec l'argent d'un dictateur libyen, ça va vite. Bah, c'est-à-dire que c'est facile d'ironiser en faisant un parallèle qui n'a pas de sens entre la mise en place d'un système de corruption internationale pour financer une campagne électorale et le fait de se tromper dans les communications des pièces d'un marché public dans une commune. Donc ouais, je maintiens que c'est pas pareil. Je maintiens que c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, si on veut devenir bête et méchant et un peu nazi et qu'on commence à regarder le respect de la légalité de l'ensemble des bâtiments publics de ce pays, vous allez être triste, hein. Il y en a un paquet qui sont pas aux normes. Un gros, gros, gros paquet qui sont pas aux normes. Alors, mettons tous les maires de France en prison. Ces salauds qui ne respectent pas la loi. Bah, non, c'est pas qu'il respecte pas la loi, c'est que juste il a pas de fucking budget pour changer la peinture au plomb sur les murs de l'école. Ça fait 5 ans qu'il demande des rallonges budgétaires pour faire des travaux. Voilà, c'est bête et méchant, hein. Les budgets ne sont que des lignes comptables. C'est ce que répètent inlassablement les maires qui demandent plus de budget. Et qui ont envie de coller des tartes au préfet en disant « file-moi du pognon ». Ouais. Mais regardez, c'est intéressant les enquêtes sur Rachida Dati. Les enquêtes sur Rachida Dati sont des enquêtes intéressantes. Rachida Dati a touché de l'argent de la part d'entreprises, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et la justice s'interroge sur ces sommes qu'elle a touchées pour savoir à quoi correspond, à quoi ça correspond. Et la justice a visiblement une petite idée derrière la tête en se demandant si cet argent n'aurait pas été perçu par Rachida Dati dans le but de qu'elle défende certains types de positions au Parlement européen quand elle était députée européenne, auquel cas on serait dans une corruption caractérisée. Bon, bah, dans le cadre de la justice, on enquête, on regarde, on cherche, Rachida Dati va pouvoir se défendre, et peut-être que Rachida Dati va réussir à convaincre, en disant, mais pas du tout, ce sont mes honoraires d'avocat dans le cadre de l'affaire machin, regardez, j'ai la facture, regardez, j'ai machin, enfin voilà. Donc, on peut détester Rachida Dati, ne pas l'aimer pour un milliard de raisons. M'en fous. Tout ce que je veux, c'est que la vérité soit faite. Et que la justice aille au bout de son processus. Et que s'il y a un procès, ce soit la justice qui détermine une bonne fois pour toutes si oui ou non il y a eu des versements suspects, machin. Voilà, c'est tout. Rachida en zonzon le kiff. Tu sais, souhaiter l'incarcération des politiques avec qui on n'est pas d'accord, c'est assez dangereux. Si d'aventure ils ont commis des délits et qu'ils sont condamnés à des peines de prison par la justice, très bien. Mais j'ai pas envie de vivre dans un pays dans lequel il est souhaitable d'emprisonner les gens qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a bien un moment où ça va se retourner contre moi. De toute évidence, on va finir en taule, toi et moi. Donc, ouais, je sais pas. Je suis pas... C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est parce qu'ils ont des comportements répréhensibles. Ah, t'es magistrat ? Bah, je savais pas. Je savais pas que ça avait déjà été jugé l'affaire Rachida Dati. En même temps, la perquisition a eu lieu qu'hier, t'es allé vite. Merci Aldan. Merci beaucoup. Doit-on être magistrat pour dire que les comportements sont répréhensibles ? Bah, dans le cadre d'une affaire qui n'a pas été encore jugée et qui est encore au stade de l'enquête, en fait, vous vous êtes déjà fait une idée, quoi. Enfin, tant mieux pour vous, mais c'est juste que je suis désolé, le procès n'a pas encore eu lieu. On ne sait pas encore ce qui va advenir des poursuites, s'il va y en avoir ou pas. Enfin, je n'ai même pas la qualification pénale du bordel. Et je sais pas sur la base de quoi vous vous êtes déjà fait une idée. Mais tant mieux pour vous. Enfin, c'est tant mieux. Elle a repoussé le jugement au maximum pour éviter qu'une peine d'éligibilité l'empêche d'accéder à la mairie de Paris. Ouais. Mais elle a le droit. Elle a obtenu des délais en justice. Et mais de là à nous prêter des intentions de supprimer une forme d'opposition, il y a quand même une sacrée marche. Mais non, mais je répondais à quelqu'un qui disait que ce serait un kiff de voir Rachida Dati en prison. Tout ce que je vous dis, c'est faites gaffe parce que vous voir vous en prison, il y en a certains que ça ferait kiffer. Et c'est pas des gens bien. Merci, sergent Green. Je la vois mal d'être maladroite, rémunérée par virement. Merci, sergent Green. Oui, je suis d'accord avec toi. J'en sais rien, en fait, mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que sur le compte en banque personnel de Rachida Dati, personnel ou compte en banque de sa boîte, d'ailleurs, j'en sais rien, il y ait des versements de centaines de milliers d'euros. T'es en mode... Elle n'aurait pas le droit de toucher de l'argent de la part d'une entreprise en l'échange de prise de position au Parlement européen. Non, elle n'aurait pas le droit. C'est de la corruption pure et simple de députés, de politiques. C'est absolument interdit par la loi. La question, c'est qu'en fait, ça va être difficile pour la justice de prouver que l'argent qu'elle a reçu correspond à une prestation qu'elle a livrée sous forme de lobbying, de je sais pas quoi, prise de position, c'est très très dur à démontrer. C'est pour ça qu'il y a eu une perquisition hier. C'est exactement pour ça. La justice cherche des documents, la justice cherche des correspondances, des emails, des SMS, des trucs qui permettraient de créer un lien, de montrer un conflit d'intérêts, de montrer un pacte corruptif, de montrer je sais pas quoi. Et c'est, voilà, l'affaire libyenne, il y a eu 15 ans d'enquête. c'est 15 ans de travail pour réussir à démontrer un pacte corruptif avec Nicolas Sarkozy. Bah là, pour Rachida Dati, c'est pareil. Et Rachida Dati, comme tout justiciable, a le droit de se défendre et a le droit, à son tour, d'apporter des pièces pour apporter des justifications. Voilà. Si d'aventure elle en a, la justice serait bien curieuse de mettre la main dessus. Voilà. Je sais pas, une facture, un contrat, un email, des agendas qui prouvent la réalité de je sais pas quoi, d'un travail et tout. Voilà, c'est... Ça se défend, hein. Rappelez-vous l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen où le Rassemblement national a produit des faux agendas pour essayer de justifier du travail d'assistants parlementaires de Jordan Bardella, machin, etc. Et bon, bah, les enquêteurs sont pas débiles, hein, ils ont bien compris que c'était du flan et ils ont démontré que c'était du flan et que c'était bien des emplois fictifs. Voilà, ça a arrêté. Est-ce que les personnalités politiques peuvent acheter des actions ? Oui. Oui, mais elles doivent les déclarer dans leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique lorsqu'ils ou elles deviennent députés, sénateurs, ministres. Merci, Monkey Watts. Vous vous souvenez de la ministre ? Comment elle s'appelait ? Il y a une ministre qui a déclaré dans sa déclaration de patrimoine qu'elle avait... des appartements à Paris. Et elle a déclaré la valeur de ces appartements. Et les journalistes, ils sont quand même allés checker le quartier, l'immeuble, etc. Ils ont dit, mais attends, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Du coup, ils l'ont fait savoir à la ministre, ils ont publié un article. La ministre a dit, ah oui, pardon, elle a modifié sa déclaration de patrimoine. Et là, il y a les impôts qu'on dit, mais attends, elle ne nous a pas déclaré ça. Hop, elle est sortie du gouvernement et je crois qu'aujourd'hui, elle fait l'objet d'une procédure en justice. Voilà. C'était qui ? Je sais plus, c'était une ministre pas très importante dans le gouvernement de, je sais pas, Michel Barnier ou je sais pas qui, ou Gabriel Attal peut-être, je sais plus. C'était pas une ministre très importante, pas très connue. Ce qui m'agace avec ça, c'est que quand la justice fait son boulot, ça crie au scandale, au complot, etc. Oui, effectivement. Quand un responsable politique est poursuivi devant les tribunaux, ses partisans ont tendance à crier au scandale et au complot. Faut pas que tu t'arrêtes à ça. C'est pas dans les pays nordiques que les finances personnelles des élus sont publiques. Est-ce dérangeant ce type de pratique ? Il y a un gros biais qu'on appelle le biais d'exotisme, que vous devez connaître. Le biais d'exotisme consiste à voir l'herbe plus verte ailleurs, qui est valable en politique quand on regarde des pays étrangers, notamment les pays d'Europe du Nord, qui ont toujours tendance à être présentés aux Français comme des espèces de paradis sur Terre. En matière de bonne gestion des finances publiques, en matière de probité des élus, etc. C'est pas pour autant souhaitable. Typiquement, à titre personnel, je suis absolument pas favorable. Merci Super Bob. Je suis absolument pas favorable à la transparence totale des finances des élus. Pour des questions de respect de la vie privée. Tout simplement. Merci Cadio. Merci, merci. Ils se payent des choses privées du coup. Oui, exactement. Et ça les regarde. Mais c'était pareil. C'est la question intéressante qu'il y avait hier dans l'audition de Patrick Cohen, où le rapporteur de la commission demande à Patrick Cohen quel est votre salaire. Et Cohen qui répond, je répondrai pas. Ça ne vous regarde pas. C'est un contrat privé avec une entreprise privée. Et il a raison, c'est son droit. T'as le droit de demander, j'ai le droit de pas te répondre. Voilà. Chacun est dans son droit, tout va bien. Cohen n'a pas de mandat. Non, Cohen n'a pas de mandat. Par ailleurs, t'as raison, Cohen n'a pas de mandat. Alors les personnes qui ont un mandat, c'est facile de calculer puisque c'est public. Le mode de calcul de l'indemnité des élus. Malheureusement, c'était un contrat pour Media One, mais pour le service public, donc bon. Mais ça change rien. Tu peux connaître le montant du contrat, mais le détail des rémunérations d'une entreprise privée ne regarde pas une commission d'enquête. Quand bien même cette entreprise privée vend des prestations au public. Les revenus publics. Imagine, tu grandis dans un monde où les salaires sont publics et il n'y a pas de gêne vis-à-vis du salaire, ça aurait moins d'ambiguïté, je pense. Ouais. Imagine, tu vis dans un monde dans lequel tous les murs sont transparents. Ce serait pas mal. Ou terrifiant. Une question de point de vue. C'est bof pour dormir en journée. Pourquoi t'as des choses à te reprocher? Bon bah alors. Je déconne. Est-ce que dans le chat, vous êtes prêt que vos revenus soient publiés chaque année? À moi, pas du tout. Je veux pas connaître vos revenus. Hein. Je veux connaître vos abonnements, ça oui. Mais je veux pas connaître vos revenus. Ça me regarde pas, c'est votre vie. C'est... J'ai la réputation d'un mec qui a du pognon alors que non. Merci à Zurich. Merci à Zurich. Pourquoi c'est différent pour un élu? Parce qu'un élu n'a pas un salaire, mais une indemnité. Une indemnité qui indemnise donc le dérangement pour l'exercice de son mandat. Et le calcul des indemnités est un calcul qui est public, qui est connu par tout le monde, qui est voté, enfin, il n'y a pas de, y a pas de mystère. Alors qu'un salarié privé qui bosse pour un employeur privé, tout à fait libre de garder le montant de sa rémunération secret. Mesdames et messieurs, il faut que je pose mes congés auprès de vous, mes employeurs, finalement. Il faut que je pose mes congés ce week-end. Ce week-end, pas de stream. La semaine prochaine, je serai en vacances. Je pose du 23 au 27. Il n'y aura pas de stream lundi 22. Je pense pas, sauf dinguerie, sauf dinguerie. S'il y a une dinguerie, je stream. Pas de stream lundi 22. Mardi 1, donc du 23 au 27. Il faut poser un mois avant, désolé. Et bah, démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Donc du 23 au 27, je suis pas là. Ensuite, je reviens. La semaine du 29, je sais pas encore ce qu'on va faire. Moi, je vais chiller ici, donc j'ai pas envie de vous promettre du Flight Simulator, parce que si je le fais pas, vous allez encore me dire que c'est pas normal. Mais on verra. Si Macron démissionne le 24, tu fais un live ou pas? Je peux même pas, je serai pas à Paris. Oh, ça va être chaud. Attends Jean, je regarde combien il te reste de RTT. Ça va, je me fous pas de votre gueule, je suis en train de poser 1, 2, 3, 4, 5 jours. Vous avez pas me refuser 5 jours? Bande de bâtards! Je pose 5 jours et la semaine prochaine, je suis off. La semaine d'après, le 29, je suis off, mais je sais pas encore, je vais peut-être streamer. Peut-être du jeu vidéo, peut-être les vacances. Pour la continuité du business, c'est refusé. Et merde. Mets-toi en arrêt maladie. Bah, je vais me mettre en arrêt, chef. Hein. Bande de bâtards à ses employeurs. Ouais, mais avant d'être une entreprise, on est une grande famille. On est une start-up, on se tutoie, on est sympa. On est en t-shirt et tout. Ça va, on est familier entre nous. Merci Jeff qui offre un sub à Navion. C'est pour la magie, hein. Vous êtes mes collaborateurs. C'est ça, vous êtes mes collaborateurs. Enfin, les subs sont mes collaborateurs. Les autres... vous êtes des parasites. Enfin bref, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas... Fait avec, hein. C'est pas... Allez, je suis un connard. C'est activé, c'est sûr. Mesdames et messieurs, je vais vous envoyer en raid chez Sarah Coppona. Vous allez écouter de la musique, ça va apaiser votre cœur, votre petit cœur. Sarah Coppona est une pianiste française. Elle parle en français et en anglais dans ses streams.
une pianiste de grand talent, streameuse sur Twitch depuis moultes années, et une femme extraordinaire. Donc, merci d'avoir été là, c'était chouette. Merci d'avoir accepté mes congés payés, et on se retrouve peut-être lundi s'il y a des dingueries qui se passent. Ce soir, j'ai une soirée. Allez, des bisous. Salut tout le monde. Ciao, bye bye.